dans le tempo, épisode 32, c'est parti.
Quelle violence.
Je suis épaté hein, par ces lancements.
Tu trouves ça violent vraiment ou
ouais,
c'est
parce que
l'enthousiasme.
En fait,
c'est
non, mais il faut savoir que Salman, dans le civil, dans le privé, ouais. C'est une voix très douce et tout machin. Ouais. Et quand il balance son dans le tempo, on sent le sub, l'énergie, tu vois, qui est vraiment.
Écoute, parce que je suis content d'être là, Daz, c'est pour ça.
Bah écoute, moi, je suis super content aussi d'être là. D'autant qu'on va parler d'un sujet de niche.
Oui.
On n'a pas l'habitude hein, dans le tempo de parler de sujets de niche. Là, c'est une toute petite niche. C'est-à-dire que c'est un style qui est écouté entre ici et Jupiter à peu près.
À peu près. C'est juste dans les tops mondiaux.
Ouais, streaming.
Écouté à travers.
Voilà, c'est ouais. Écouté dans tous les sens. Mais ça reste suffisamment méconnu pour que nous, on en parle.
En France, c'est vrai.
Ouais. Ouais. On va parler du reggaeton.
Le reggaeton. T'aimes bien cette musique, toi, à la base?
Alors, je peux, tout de suite, on rentre dans les problèmes, les gars.
Faut dire la vérité.
Non, mais moi, c'est pas mon style de prédilection.
Ouais.
Mais,
ouais.
Okay. Mais, comme tous les styles musicaux, en fait, je pense que quand on en discute avec des gens dont c'est la passion,
ouais.
Eh ben, c'est communicatif.
Putain, ça tombe bien, mec.
Ils arrivent à t'intéresser. Ouais,
parce
ça tombe bien.
Parce qu'on on a deux invités dont c'est effectivement la passion, qui sont, des gens qui se sont penchés sur le reggaeton à travers un documentaire notamment. On a avec nous José Tippenhauer, a.k.a. Geos.
A.k.a. Geos.
Geos. C'est vrai que c'est plus adapté aujourd'hui. José, merci beaucoup d'être avec nous. Tu veux qu'on t'appelle comment durant l'émission? Ouais. Geos, José, tu préfères quoi?
Geos, ouais, on peut
Geos. Geos. Eh ben, on faut dire Geos, faut faire comme ça vraiment.
Tu le prononces comme tu veux. Geos, 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 j'ai eu le droit à tout.
Ça
s'écrit G-E-O-S.
En tout cas, merci mon gars d'être là. Tu es venu avec Victor aussi.
Victor
Santos Rodriguez. Les gars, vous avez bossé, comme je le disais, tous les deux sur un documentaire qui s'appelle Reggaeton Theory. Alors, vous-même, vous venez... Alors, Geos, toi, on te voit à la radio, notamment en Suisse. On t'écoute à la radio. Tu viens beaucoup de l'univers rap, notamment.
Mm-hmm.
Toi, Victor, t'as un profil un peu plus universitaire. Tu es doctorant. Tu fais de la recherche autour des flux de migration, notamment, etc. Comment vous avez pensé à faire un truc sur le reggaeton? Alors ça, je me demande, vraiment, on va en discuter, mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que ce documentaire Reggaeton Theory, il se propose, c'est une proposition un peu, vous-même, vous pensez que c'est certainement la première analyse francophone sur le reggaeton, avec un regard assez social, historique, etc. C'était vraiment le but avec ce documentaire, de proposer un truc assez complet, j'imagine.
Alors la genèse du projet, ouais. C'est que déjà de base, on est des immenses fans de reggaeton, on en okay. écoute depuis très jeune, on va en soirée reggaeton, on l'a pratiqué, comme on dit... Et ouais, donc déjà en termes de consommateurs en fait.
Ouais.
Et puis ça faisait un moment qu'on se disait, donc on avait monté un média bénévole qui s'appelait J'ai d'encre, qui ouais. existe encore parce qu'il est sur internet, jaidencre.ch. On écrivait beaucoup d'articles dessus. On a toujours voulu diversifier en fait les contenus en termes de format. Donc ça faisait des années qu'on se disait, est-ce qu'on pourrait lancer un podcast, est-ce qu'on pourrait lancer des vidéos, des trucs comme ça. Et puis un des déclics en tout cas, c'était que moi je suis parti à Cuba en 2018,
okay.
je suis rentré de là et j'étais là, purée les gars, il faut absolument, tu me contredis hein, si c'est faux, mais il me semble quand même qu'on est plus ou moins là-dedans. Et j'ai dit, purée les gars, il faut absolument qu'on parle du reggaeton, qu'on arrive à transmettre cette passion, et justement pas que le faire d'un point de vue premier degré, c'est-à-dire waouh c'est cool, c'est de la musique pour danser, ça c'est le cas hein, c'est vraiment de la musique festive, mais il y a tout un truc derrière, tu vois, typiquement à Cuba il y a toute une situation politique qui est très complexe, donc je me disais c'est l'occasion en fait via le reggaeton d'aborder d'autres thématiques beaucoup plus profondes,
ouais.
Et puis à partir de là, on a commencé à faire, justement, on a des déformations un peu professionnelles, académiques qui font que, alors, je tiens à préciser, j'ai aussi fait un tour à l'université, j'ai
c'est
pas
vrai.
Été aussi assidu que mon ami, mais ça c'est une autre histoire, mais ouais. pour dire que, typiquement.
T'as même enseigné un peu.
Ouais, alors ça c'est un ouais. métaphore aussi sur le côté, je continue ouais. d'enseigner, mais pas du tout à l'uni. Mais pour dire que, tu vois, quand, ça je trouve que c'est une bonne déformation professionnelle, c'est que quand tu veux lancer un projet, tu regardes qu'est-ce qui a déjà été fait, c'est au moment de faire des travaux de recherche, des trucs comme ça. Tu fais un état de l'art, et là on s'est rendu compte qu'il y avait des immenses lacunes dans le monde francophone, en tout cas même au niveau justement académique, etc. Il y avait des articles qui existaient qui avaient écrit sur le reggaeton d'un point de vue musicologique, d'un point de vue sociologique, etc., mais beaucoup en anglais et en espagnol. Et donc on s'est dit, mais en fait il y a vraiment une place à prendre en fait.
Toi Victor, ouais vas-y.
Ouais, non, puis de manière plus générale, on a fait le constat d'un décalage entre
le succès absolument extraordinaire du reggaeton aujourd'hui, d'un point de vue commercial, de sa capacité de diffusion.
C'est partout.
Exact. Et puis, d'un autre côté, la méconnaissance qui enveloppe encore ce genre musical.
C'est partout aussi.
Ouais. Et donc, la raison d'être de notre démarche, c'est un peu de combler cette lacune. Puis à côté de ça, peut-être un autre aspect qui nous ramène plus dans le contexte français, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui produisent leur art en mobilisant des rythmiques reggaeton sans le savoir ni même du coup le reconnaître. Et donc on a cherché à visibiliser l'identité, disons, musicale de ce mouvement qui est aujourd'hui planétaire.
Écoute, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, avec Daz, on partage le même constat. Le documentaire est extrêmement réussi. Bravo. Ouais. Ça s'appelle donc Reggaeton Theory. Allez voir ça. C'est dispo sur YouTube. Donc vraiment, bravo pour Staff. Et merci d'être là, les gars. Beaucoup. D'autant plus qu'ils viennent de Suisse.
Ouais.
Tu te rends compte? DLT s'internationalise. C'est la fierté, ça, quand même.
Incroyable.
Est-ce qu'on peut officialiser que Dans le Tempo, en parlant de reggaeton, devient Dans le Dembo?
Mais oui, moi, je suis chaud. Dans le Dembo, absolument.
Je suis complètement d'accord. Alors, juste expliquer ce que c'est que le Dembo pour notre audience.
Ce que je vous propose.
Oui.
Donc, le but un peu de cette émission, c'est, sans se substituer à votre documentaire, parce qu'il faut aller le voir, il y a beaucoup de choses dedans. En plus, vous avez mis du vôtre, hein. C'est-à-dire qu'on vous voit danser, vous allez voir des producteurs de musique, ouais, etc., des acteurs de la scène. Donc, c'est absolument passionnant. Donc, on va pas reprendre tout ça, mais on va essayer quand même, grâce à votre expertise et le travail que vous avez effectué avec le documentaire, d'un peu mieux connaître le reggaeton, de comprendre sa situation actuelle, son historique aussi, d'où ça vient. Mmh. Et notamment aussi un point que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce qu'il véhicule. Parce que c'est un critère essentiel. Enfin, en tout cas, dans le documentaire, on voit que c'est un truc qui vous tenait à cœur. C'est de parler aussi du propos du reggaeton, etc. Mm-hmm. Sa diversité aussi, en réalité, qui est souvent méconnue.
Son évolution, surtout. Mm-hmm.
Absolument.
Le propos du début et ce qu'on a maintenant en 2022.
Mm-hmm. Et le premier truc que j'aimerais, c'est pour continuer un peu sur l'introduction et vraiment rentrer dans cette première partie de votre intérêt pour le reggaeton, c'est peut-être citer quelques stars actuelles, peut-être écouter quelques morceaux rapidement, parce que j'imagine que c'est aussi un truc qui vous a poussé à faire ce documentaire, c'est dire, mais ça a une résonance tellement importante le reggaeton aujourd'hui,
ouais.
C'est nécessaire de l'analyser. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques mecs, nous parler un peu du statut du reggaeton actuel?
Bah, peut-être une stat qui me paraît résumer un peu la popularité du reggaeton aujourd'hui, c'est que l'artiste le plus streamé sur Spotify aujourd'hui, c'est Bad Bunny.
Okay.
2021.
Okay.
2020, c'était lui aussi. Mm-hmm. De 2018 à 2020, sur la plateforme de streaming Deezer, mm-hmm. C'était J Balvin. En 2017, année de la sortie de Despacito, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, et beaucoup de personnes sont entrées dans le reggaeton par le biais de cette chanson-là.
Okay.
Je crois que sur les 10 clips vidéo les plus vus sur YouTube, la moitié était reggaeton. Même 6 sur 10 si on compte la trappe latino là-dedans.
Okay.
Et l'année d'après, c'était 7 sur 10, voire 8 sur 10 si on inclut aussi
incroyable,
la trappe latino.
Incroyable, constante progression.
Donc voilà, je crois que ça, c'est un peu des stats qui sont très parlantes de ce point de vue-là.
Mais ce qui est marrant, c'est que...
Totalement.
Moi, en fait, effectivement, je suis vraiment... comme souvent dans cette émission, hein, je suis le béotien.
En vrai, j'y connaissais pas grand-chose non plus avant. Le documentaire m'a beaucoup aidé.
Moi j'ai pris effectivement la vague d'Espacito en pleine gueule, comme à peu près tous les habitants de cette planète, tu vois.
Mm-hmm.
Et c'est marrant parce que je faisais pas forcément le lien, moi, entre ça et du Daddy Yankee ou des trucs... ou même du Lorna, tu vois, à l'ancienne, tu vois, Papi Chulo, tout ça, etc.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, ok, c'était de la musique latine, mais moi, j'avais même pas tilté que c'était classé comme reggaeton. Mm-hmm. De par cette rythmique dembo là qui est en fait la colonne vertébrale du truc.
Absolument. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est peut-être écouter déjà, parce qu'on va essayer un peu d'illustrer ce podcast avec quelques extraits assez courts, parce que sinon ça va nous poser des problèmes de droit. Mais essayons quand même d'illustrer ça avec un peu de musique. Tu citais Bad Bunny, J Balvin. Est-ce que par exemple il y a un morceau d'un des deux qu'on pourrait écouter qui est assez représentatif, un gros tube et ou comme ça, ouais. Vous êtes...
Bah moi aussi, j'aimerais bien écouter Bad Bunny et Moscow Mule, c'est le et premier morceau de son dernier album Un Verano Sinti, donc un été sans toi là, et ce morceau il est incroyable.
Et bah je vous propose qu'on écoute un extrait court.
Let's go.
Vamos. Bah là ça va. On dirait du PNL.
Si yo no te escribo, tú no me escribes. Hey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizá...
Alors j'avance un tout petit peu pour qu'on ait une idée de...
Mm-hmm. La rythmique.
Ok,
on y est.
Ok, donc on voit très clairement qu'il y a une rythmique que tout le monde a identifiée. Il faut qu'on parle de ce, de cette identité, en fait, y compris, enfin, de l'esthétique sonore du reggaeton. C'est une musique de métissage qui mêle donc plein d'éléments différents, mais la base, ça reste quand même un rythme, le dembow, c'est cette rythmique qu'on entend. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette, cette esthétique sonore très spécifique du reggaeton?
Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que la, la dimension musicologique, elle est intrinsèquement liée au côté en fait social, historique et des espaces en fait qui ont vu naître cette musique-là. Et donc, pour comprendre le dembow, il faut comprendre l'histoire du reggaeton.
Eh ben, allons-y.
Bah alors allons-y.
Non, bah... rentrons dans une partie un peu historique sur ce, sur la naissance du reggaeton et notamment en lien avec son esthétique sonore.
Alors c'est déjà, il faut savoir que le reggaeton a une généalogie qui est complexe et très contestée. Parce qu'en raison de son succès actuel, il y a beaucoup de revendications de nature presque nationaliste. En fait, de personnes, de Panaméens, de Portoricains, même de New-Yorkais qui diront, bah voilà, en fait, le reggaeton, c'est nous. On a apporté une contribution majeure et si le reggaeton existe aujourd'hui, c'est parce que nous avons, disons, marqué cette musique de notre empreinte. Ce qui est vrai. Et donc, c'est, il faut se méfier des récits qui sont, disons, linéaires et puis qui diraient, bah voilà, ça, c'est l'origine du reggaeton. Mais en gros, sur la base de notre, nos entretiens qu'on a fait dans le cadre du documentaire et puis notre travail de documentation, on peut dire que le reggaeton est né au Panama et non pas à Porto Rico comme on se le représente souvent. Dans, entre la fin des années 1970, devrais-je dire 70 ici, et dans les années 80.
Ah, si tôt, parce que souvent on parle des années 90 pour le reggaeton quand même, mais ça correspond pas réellement à la réalité?
Alors ça correspond à son développement à Porto Rico, justement on y vient. Et c'est vrai que c'est peut-être cette phase-là qui est un peu plus connue. Mais avant ça, donc on est dans ce petit pays d'Amérique centrale, et ce qui est intéressant...
Le Panama donc.
Ouais, le Panama bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le Panama a connu une vague d'immigration très importante dans le cadre de la construction de son canal, le fameux canal du Panama. Donc entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et c'est une immigration qui était pour beaucoup antillaise et notamment jamaïcaine. Et donc ça, c'est très important pour comprendre comment par la suite, en raison de la présence de cette diaspora jamaïcaine, les sonorités reggae et dancehall, donc un sous-genre du reggae rythmiquement plus agressif, ont circulé au Panama. Et ce qui est intéressant, c'est que le Panama, bah là-bas, on parle essentiellement espagnol. Et donc, en fait, il y a des Afro-Panaméens comme Renato, Nando Boom, El General, qui ont commencé en fait à chanter sur ces sons de reggae et dancehall en espagnol. Et ça a donné ce qu'on appelle le reggae en espagnol. Et donc ça, c'est la base du reggaeton.
Donc le Spanish reggae, précisément.
Spanish, absolument.
Peut-être que Géos, tu peux nous aider là-dessus, d'ailleurs. Le reggae, je pense que beaucoup de gens identifient ce que c'est. Le dancehall, peut-être un tout petit peu moins. C'est aussi issu de la culture jamaïcaine, c'est lié directement au reggae.
Complètement. Bah, si on résume le... Alors, je suis pas un expert, mais peut-être même rythmiquement, le reggae, t'as ce truc très lent qui va faire ton... Okay. Et puis le dancehall, ça va faire tout, tout, qu'un, tout, tout, qu'un, tout, tout. Donc c'est, comme il disait, beaucoup plus agressif ou en tout cas rapide en termes de rythmique. Les gros noms du reggae dancehall, tu vois, c'est tout ce qui est, bon, alors, enfin, actuellement, qui continue de percer, c'est, tu vois, les Vibes Cartel, les Beanie Man, dans ceux qui ont vraiment percé dans les années 2000, il y avait Sean Paul, tu vois, qui avait ramené beaucoup de morceaux. Et en fait, en France, dans le monde francophone, on appelle ça le raga. Mais en fait, vraiment, du côté, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, en Jamaïque, ils appellent pas du tout ça le raga, tu vois. Parce que le raga est le diminutif de ragamuffin, c'est plutôt la manière de tester.
Personnes, plutôt, à la base, non, ragamuffin, c'est pas pour désigner un peu des façons de vivre, un peu, ou des personnes.
Non, c'est la manière de toaster, tu vois.
Un peu le... Tout le monde toast sur le même rythme tout le temps.
Et donc
c'est
le raga.
Un peu, hein.
Et donc le voilà, on a coupé raga, ça je sais pas exactement à quel moment dans le monde francophone on a appelé ça comme ça, mais vraiment dans le monde anglophone et notamment caribéen, ils appellent ça vraiment reggae dancehall quoi. Et les gros noms, c'est un peu ceux que, enfin, il y en a plein d'autres.
Est-ce qu'on peut s'écouter un grand classique du dancehall, vous en avez un sous la main pour qu'on voit à peu près
Écouter le dembow de Shabba Ranks, hein.
Qu'en fait ça nous permet de faire, c'est une filiation directe entre reggae dancehall et donc le reggaeton. On comprend que ça passe par le Panama avec donc cette immigration antillaise jamaïcaine, et il y a un morceau effectivement qui va marquer presque une forme de transition du dancehall au reggaeton. si je dis pas de bêtises.
C'est exact. C'est Dembo.
Et c'est un morceau qui s'appelle Dembo.
Dembo
de Chabaranx.
Qui veut dire en gros, Chabaranx, il courbe les chines. Si on traduit de façon soutenue, on va dire.
Écoutez, on s'écoute un extrait de Dembo.
Yes.
Ouais, super connu en fait.
Mm-hmm. Dans les classiques du dancehall, t'as aussi les oh no, tous ces, tu vois, ouais. Les ton, tu vois, le okay. Morceau en question.
Pas comme
ou
ça,
les
okay.
Murder She Wrote,
ouais,
tout
ouais,
Murder She Wrote, tous ces ouais. Trucs-là qui datent, alors si je resitue, je pense ça doit être les années 80, mais c'est des morceaux dancehall dans lesquels tu commences à justement, comment dire, distinguer cette boîte à rythme qui est un peu plus, qui a le plus le contretemps. Tu vois, parce qu'encore une fois, le dancehall, il fait tout, tout, ka, tout, tout, ka, et le reggaeton, le rythme dembo, qui est le rythme du reggaeton, il fait tout, ka, tout, ka, donc tu rajoutes ce contretemps, en fait.
Parce que ce qu'il faut dire, en fait, c'est que, ce titre de Chabaranx, Dembo, va donner carrément, son nom à cette rythmique spécifique ouais. Du reggaeton, en réalité. Donc, ce qu'on appelle le dembo.
Exact. Ce qui est marrant, parce que, en France, Chabaranx, il a pété à un moment donné. Même moi, j'ai acheté
ouais.
L'album, tu
ouais,
vois.
C'est vrai.
Avec Mr. Ah ouais okay, Loveman okay. Et tout ça. Enfin, ouais. Franchement, ah ouais. Années 90.
Ben ouais,
années 90.
Une tuerie, ça.
Et il y avait une scène, donc, raga, en France.
Ouais.
Et c'est ça qui est drôle, c'est que, tu vois, on avait des Daddy Yod, on avait, si ouais. Tu prends.
Tonton David.
Tonton David, si tu prends, le premier album de MC Solar.
Ouais.
À la fin, il y a un morceau qui s'appelle Raga Jam. Il y avait même Kerry James, ouais, Daddy ouais. Kerry à l'époque.
Je ne veux pas aller
au service militaire. Donc tu vois, ça toastait, etc.
Ouais,
et c'est
vrai.
Marrant de se dire que il y avait des mecs qui faisaient du raga en France, raga ouais. Sonic, tout ça.
Ouais.
Et ils ont pas fait de reggaeton en fait, tu vois. Donc je sais pas pourquoi le truc s'est interrompu alors que on était, tu sais, il y avait une rampe et tout. Je veux dire, on entendait des artistes raga. Il y avait des magazines après-guerre raga dans les librairies, tu vois.
Ouais. D'ailleurs, je pense que le magazine raga a grandement participé à instaurer ce mot-là, l'officialiser en tant que raga.
Ouais, c'est le raga. Mais c'est marrant que, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tous les éléments qui étaient prêts pour que, ben en fait, cette culture-là du dancehall et donc potentiellement du reggaeton derrière, infuse aussi ici.
Mm-hmm.
Et en fait, bah, ça s'est complètement paumé.
Vous savez ce que je vous propose, parce que c'est un thème extrêmement intéressant. On parlera un peu de l'internationalisation du reggaeton ensuite, et notamment en France. Mais peut-être juste pour... Daz, on y reviendra, hein, mais pour terminer sur le morceau de Chabaranx
ouais.
90.
Ouais.
On est en 1990, donc. Et là, on a...
C'est même un peu avant, non? C'est 90.
Ouais, alors, c'est 90. Moi, je crois que c'est 90.
Okay. C'est 1990. Ah ouais, par contre, ce qui est vrai, c'est que un ou deux ans avant, je crois d'ailleurs que c'est le même producteur derrière Dembo, avait déjà utilisé ce rhythm, cette musique, cette rythmique.
Mm-hmm.
On la retrouve un peu, mais le morceau qui va marquer, effectivement, c'est Chabaranx Dembo. Comment ça donne naissance vraiment à un style? Pour quelle raison ce morceau il marque autant? Et comment c'est réapproprié tout de suite?
Là, je pense que c'est important de reprendre un peu le fil chronologique qu'on
ouais,
avait avant.
Ouais, ouais.
Parce que, en fait, donc cette musique, elle s'infiltre dans la production musicale au Panama. Donc on est encore dans les années 80. Et puis, donc j'ai cité le nom de quelques artistes et notamment de Renato. Okay. Et en fait, bah peut-être qu'on pourra passer un extrait après. Mais en gros, Renato fait un morceau en 1985, okay. Qui est un des premiers grands succès du reggae en espagnol et qui s'appelle El Denny. Et en fait, le Denny est une organisation étatique qui est censée assurer la sécurité des Panaméennes et des Panaméens, mais qui en réalité abuse de son pouvoir et discrimine notamment racialement une partie de la population.
Okay.
Et ce qui est intéressant, pourquoi j'évoque ça, c'est que contrairement à l'image qu'on se fait communément du reggaeton, dès le départ, cette musique, c'est une musique qui est faite d'engagement et qui a une forme de militantisme.
Okay.
Et le déni est utilisé ici comme une métaphore pour parler des abus et des discriminations dans la société panaméenne, notamment les abus que les afro-panaméennes et panaméens vivent dans leur chair. Et donc c'est intéressant de voir ce
dès
côté-là.
Les origines, dès il y a cet aspect-là. Mmh. D'ailleurs, cet aspect-là, on le développera un peu plus ensemble, puisque on va aborder une partie donc sur l'internationalisation, mais aussi sur ce que véhicule le reggaeton et notamment son d'un point de vue social. Ouais. Évidemment, c'est important. Tu le cites.
Mmh.
Peut-être pour terminer quand même sur cette historique, sur ce développement petit à petit du reggaeton. Donc, on l'a dit quand même début des années 90, qui est charnière pour la forme moderne. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait le reggae espagnol, le Spanish reggae, qui d'une certaine façon, les prémices du reggaeton?
Bah, là, en fait, il nous manque juste une petite étape.
Ouais.
C'est celle du voyage à Porto Rico qui arrive à ce moment-là. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le reggae en espagnol arrive à Porto Rico par le biais de DJ comme DJ Negro, DJ Playero, qui en fait prennent ces musiques, ces sonorités, et puis font en fait les mettent à disposition d'artistes locaux, donc portoricains, qui eux, elles et eux, sont très influencés par le hip-hop. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que Porto Rico, c'est un État libre associé des États-Unis. D'autres parleraient de colonie. Mmh. Et en fait, ils sont très influencés par la culture hip-hop à ce moment-là. Et donc, les Daddy Yankee, Tego Calderon ou Ivy Queen sont des personnes qui viennent du hip-hop à la base. Okay. Et en fait, qui commencent à travailler avec ces rythmiques-là. Et ce mouvement-là, à l'époque, dans les années 90, on l'appelle l'Underground. Et en fait, l'underground, pourquoi ? Parce que, en raison de la brutalité des textes, mais aussi des modes de consommation, production et diffusion de cette musique qui sont underground. Ça passe pas à la radio. Mmh. C'est une musique qui parle de réalités sociales qui sont mises aux marges, les discriminations raciales, la pauvreté, etc. Mmh. Et donc, le gouvernement a très vite vu le potentiel subversif de cette musique et a réprimé cette musique. Ça a même donné lieu à des saisies de cassettes et de CD. Underground en 1995.
C'est marrant, ouais, parce qu'ils ont fait pareil avec le gangsta rap, en fait.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Les Américains,
c'est vraiment le même modèle.
Ouais,
en fait.
c'est
marrant, d'ailleurs, parce que c'est là où tu peux te dire que il y a souvent du débat autour du terme musique urbaine, ce qui est urbain, etc.
Ouais.
Mais en tout cas, là, ça peut être pertinent de dire que d'une certaine manière, le reggaeton est une musique urbaine aussi, dans le sens où elle provient de la ville et surtout, elle décrit de la rue, du mm-hmm. milieu populaire, etc. Mm-hmm. Et c'est pas étonnant que ça soit que ça fait clic avec le hip-hop, quoi, en fait.
Ce dont tu parles dans les années donc 90, 90 95, c'est période d'opération de la mano dura,
contre le crime.
Voilà, donc donc la main dure, en gros, ça veut dire ça. Et puis donc effectivement des opérations qui sont menées où on va dans des caves saisir des, bah évidemment il y avait, parce qu'en fait le truc c'est que c'est lié aux espaces dans lesquels la musique est produite.
Ouais.
Tu vois, c'est des trucs parallèles, c'est-à-dire que c'est produit dans des endroits où effectivement il y a du trafic de drogue, il y a des choses sombres qui se passent parce que c'est des gens qui vivent en marge. Donc c'est vraiment la comparaison, l'analogie avec le gangsta rap, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui racontent leur quotidien, c'est un quotidien dur, qui vivent dans les mêmes espaces, même il y en a qui ont les pieds
dedans, dans le trafic. Quoi.
Mais c'est pas la musique elle-même qui influence le trafic, elle raconte ce genre de choses.
C'est le lifestyle qui influence la musique, quoi.
Exact.
Et du coup, en essayant de prendre comme prétexte la lutte contre le trafic de drogue, etc., ils en profitent aussi pour essayer de baisser le côté subversif du truc en disant on saisit aussi la musique comme si ça avait marché un jour dans l'histoire de
l'humanité. Ce qui est vraiment intéressant, parce que ça c'est un truc justement dans nos différentes recherches et tout, d'ailleurs je recommande, enfin on fait de la citation aussi, il y a un super article de Society, le magazine Society, où il parle de ça, un peu de l'historique du reggaeton et tout, et puis il y avait plusieurs personnes qui s'exprimaient dans cet article en disant qu'en fait cette période-là de radicalisation du pouvoir politique envers cette musique-là, finalement ça va bénéficier à cette musique.
Exactement.
Parce que t'as effectivement, alors t'as toujours le côté subversif qui est aussi côté vendeur, tu vois.
On essaie de nous censurer, machin, etc.
Exact.
Forcément.
Mais t'as vraiment aussi une forme d'autocensure qui va s'opérer. Peut-être que là je fais des bons en avant, mais vu que c'est quand même directement lié à ça, c'est qu'ils vont édulcorer la musique, ils vont la rendre plus accessible. Donc là où ça parlait vraiment avec des termes super crus au niveau sexuel, sexualité, rue, etc., ils vont un peu l'édulcorer et du coup ça va la rendre plus accessible auprès du grand public. Il y a des gens qui disent merci, tu vois, dans l'article de Society, je crois que c'est Don Omar qui dit merci à Gloria Vélez, elle s'appelle comme ça, la responsable politique qui était à la tête de la mano dura, je crois.
Elle est arrivée plus tard, c'était au début des années 2000.
Okay.
C'était une autre opération.
Mais en gros, tous ces trucs de l'État, tu vois, en fait, ils les remercient même parce qu'ils disent en fait, grâce à votre censure, on s'est adapté et on a survécu et on est même devenu plus fort.
Donc là, c'est exactement comme Sid Lawrence Tucker aux États-Unis avec Tupac, avec Ice Cube, qui finalement leur a fait vendre des millions et des millions d'albums.
Le parental advisory est devenu un argument de vente.
Truc de vente.
Si tu l'as pas, ça va pas. Tu vois, okay.
Ouais, c'est clair.
Donc si je comprends bien, pour résumer un peu, ça part du Panama, fin 70-80, se crée une forme, donc le Spanish Reggae, qui ensuite lui-même s'exporte entre guillemets à Porto Rico, où il se mêle à la culture hip-hop avec l'influence des États-Unis, et donc on arrive en fait à la forme moderne entre guillemets du reggaeton à ce qu'est le reggaeton réellement.
Pas tout à fait. Ah, justement. Là, c'est encore.
Continuons le petit historique.
Non, mais on y arrive vraiment là. On est tout près. Donc à ce moment-là, donc ça donne une hybridation entre le rap, le hip-hop et puis donc ces sonorités plus reggae voire dancehall. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là, on parle pas encore de reggaeton. Okay. Même si Daddy Yankee, en 1992, dans une des compiles de DJ Playero, avait lâché le mot, okay. En fait, ce genre musical ne s'identifie pas encore comme reggaeton. Et ça sera qu'au début des années 2000, à la faveur justement du savoir-faire portoricain en termes de professionnalisation, que l'underground avancera vers ce qui est le reggaeton. Et pour revenir à ce qu'on parlait d'un point de vue rythmique, ça se fait aussi par le biais d'une standardisation de la colonne vertébrale musicale. Ouais. Et en fait, ça devient le reggaeton à partir du moment où le dembow devient la structure même de toutes ces musiques. Parce qu'avant ça, dans l'underground, il y avait des instruments, on en écoutait encore là dans le train en arrivant, qui étaient très hip-hop. Par exemple, Eddie D, Señor Oficial, c'est une chanson où il toastait en mode ragamuffin, mais, mais l'instru était très hip-hop encore.
Donc, il a vraiment fallu attendre que... mais je veux dire... C'est vraiment un truc qui s'est fait de manière naturelle. C'est pourquoi est-ce que les gens ont choisi puisque du coup il y avait cette culture urbaine, donc il y a le lifestyle, il y a les mecs qui ont l'envie de faire de la musique, etc. Ils ont l'influence du hip-hop, donc ils ont toute l'attitude à faire leur propre le hip-hop local, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un gars à un moment donné qui s'est dit, mais en fait on va prendre cette rythmique dembow et s'en servir et créer un... Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté ou cette cette conscience que les mecs ils se dirigeaient vers un truc vraiment bien bien spé ou...
Bah il y a une raison, elle est très simple, et c'est la en fait ce qu'ils pouvaient observer en discothèque.
C'est-à-dire c'est ça, d'accord.
Tu mettais du rap, quasiment personne dansait. Tu mettais les mêmes paroles avec du dembow.
Et là, c'était
tout le monde était sur la piste.
En fait, dans le documentaire, il y a Roberto de Radio Latina qui le dit très bien. Il dit, il cite justement Daddy Yankee, il cite aussi Vico C, qui est quand même un des pionniers aussi au niveau rap portoricain. Et c'est des gars qui viennent vraiment du rap à la base. Mais ça marche pas, ou ça marche, mais dans des proportions, tu vois, relatives.
Et dans le contexte festif, beaucoup moins, en tout cas.
Exact. Et en fait, quand il commence à mettre le pied concrètement dans le reggaeton et diffuser ça, bah, le succès commercial devient aussi plus important.
C'était de la musique de club. C'était fait pour les clubs, en fait, de base.
Est-ce que c'est fait de base? Alors, tu vois, au niveau de l'intention, non, mais je sais pas, tu vois, ça, c'est...
Et peut-être qu'ailleurs que la division musique de club par rapport aux autres musiques est moins pertinente dans certains contextes culturels et géographiques.
C'est vrai, c'est une bonne question, parce que tu vois, c'est clair que, en Amérique latine, et là, c'est pas du tout pour stigmatiser ou quoi, mais la musique fait partie du quotidien, d'aimer aller danser, tu vois, on n'a pas le même rapport aussi au...
Ce que je veux dire, c'est que, nous, dans la culture hip-hop française, les morceaux pour les clubs, tu vois, c'est les mecs qui visent vraiment les gros bangers, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quand un artiste faisait du rap dans les années 90-2000, il se disait pas, faut que mon truc il passe en club. Alors que les rappeurs new-yorkais, et là je parle aussi bien de Fat Joe que Noriega que tu citais, donc même les mecs qui étaient vraiment du rap de Kaira, donc Mobb Deep, etc., faisaient des morceaux qui voulaient voir passer en club, tu vois.
Mobb Deep aussi,
Mobb Deep, Quiet Storm avec Lil Kim.
Pourtant, il est rue, quand même.
Il est ultra rue, mais en fait, la basse, quand tu la passes en club, ça, les murs, ils tombent, tu vois. Et en fait, les mecs, ils voulaient toujours pousser la basse le plus fort possible, tu vois. Donc, il y a cette culture que moi, je considère qui est vraiment très new-yorkaise. De dire, on fait de la musique, mais il faut absolument que ça soit joué en club pour que ça soit, c'est valide, en fait.
Mais le rapport, encore une fois, je suis pas expert de en musicologie états-unienne, on va dire, mais tu vois, le rapport à la danse, il est différent.
Oui, ça, par contre.
Enfin, évidemment, dans le rap, t'as eu les blocs parties dès le début et tout ça, mais tu vois, l'Amérique latine, le truc, même tu le vois, les artistes reggaeton, on connaît toujours leur classique au niveau de la salsa, etc. Tu vois, il y a vraiment un rapport à la musique qui se danse, qui est autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si l'intention de base, tu me contredis si je me trompe par rapport à ça, mais je suis pas sûr qu'on s'est dit, ah, il faut faire de la musique pour le club.
Ils se sont juste dit, c'est de la musique normale.
Nous, on aime danser sur la musique, on en pratique une musique dansante, et puis on se rend compte qu'elle marche mieux, qu'elle commence à être plus diffusée que quand on rappe. Bah, le rapport coût-bénéfice, il est...
Puis j'imagine...
Fait, les calculs sont bons, Kevin.
J'imagine que les racines, l'affiliation avec le reggae, et donc derrière certainement une culture du sound system, une culture aussi du rythme, c'est-à-dire de prendre, que ça soit un aspect, un motif rythmique ou mélodique dans un morceau, et ensuite de l'étendre, de le reprendre, etc., que ça devient c'est presque un mème aujourd'hui à l'ère d'internet, on dirait ça. Ouais. Il y a qu'un motif comme ça qui revient sans cesse. J'imagine que ça a participé aussi à l'essor et à la création du reggaeton, quoi.
Bah, pour le côté étymologique du mot reggaeton, il y a plusieurs théories, mais une d'entre elles qui ressort assez souvent, c'est que ce serait la contraction du mot reggae marathon. Okay. Donc marathon de reggae, et c'était justement des festivals où il y a des mecs qui venaient toaster pendant des heures, et puis des DJ qui passaient du son pendant des heures avec justement le côté sound system, etc. Tu vois, le contexte caribéen, c'est ça, c'est les sound systems, les grosses fêtes. Moi, je suis jamais allé à Porto Rico, mais aussi dans le documentaire, il y a DJ El Dani qui raconte justement c'est les après-midi, même le dimanche, où les mecs qui débarquent, qui sortent, tu vois, les sonorisations, enfin les grosses enceintes dans la rue, et puis ça danse, tu vois. Donc le rapport à la musique, il est déjà différent que en Occident. Ouais. En fait.
Est-ce qu'on pourrait pas s'écouter un morceau d'un pionnier peut-être,
El Dani,
entre les années 90 et 2000, El Dani par exemple, on peut. C'est peut-être un peu plus ancien, El Dani, c'est ça.
Je sais pas. Est-ce qu'on est déjà à Gasolina? On est déjà au début des années 2000.
Tu penses qu'on peut être là-dedans? Allez,
c'est le moment où cette vidéo se fait striker.
Tego Calderon, qui est un des pionniers.
Et quel morceau de Tego Calderon on pourrait s'écouter? Peut-être un assez classique, si vous en avez en tête.
Paquerretosen. C'est.
Je le vois, je le vois. Et ben c'est parti.
Oye, en la Vallarta, Tego Calde con DJ Yo. Metiendo en esta broma, eso es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tego Calderón pa' que retocen. Vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la pata por si no fían sin misterio.
Y voilà.
Bon, et là, la rythmique qu'on entend, c'est le dembow. C'est le fameux dembow.
Mais on note aussi l'influence de la bachata, par exemple.
Ah, là,
avec
on l'entend, ouais.
Alors, ça, c'est très intéressant, parce que... oui, tu veux terminer peut-être sur la bachata?
Non, c'est pour complexifier un petit peu le tableau.
Parce que si on s'arrête un peu sur l'esthétique sonore, OK, le dembow, c'est un passage obligé. On peut retrouver aussi un peu quand même le skank issu du reggae, c'est-à-dire ce contretemps assez spécifique, qu'il soit la guitare, au clavier, etc., qu'on retrouve beaucoup dans le reggaeton.
À fond.
C'est exactement ça. BPM relativement lent, assez spécifique aussi. Et derrière, et c'est là où c'est intéressant effectivement ta remarque, c'est le métissage. C'est-à-dire qu'on est en Amérique latine, ça passe par plusieurs pays, etc. Et chaque pays, d'une certaine manière, apporte un peu son historique, sa tradition, son folklore musical aussi à l'ensemble.
Bah ouais, dans le documentaire aussi, Régis Molloy, qui donc un doctorant qui a travaillé sur, qui a fait une thèse de doctorat sur le reggaeton, qui retrace, tu vois, justement, quand on parle de l'espace caribéen, l'immigration au Panama, de différentes autres îles des Antilles, etc. Il parle du guoka, je crois, qui est les percussions plutôt justement de Guadeloupe, Martinique. Tout ce qui est Bombay Plena, ça c'est des sonorités aussi traditionnelles, ça c'est à Porto Rico. Donc t'as des sonorités intrinsèques aussi, tu vois, qui vont mélanger. C'est vraiment, je te laisse compléter aussi peut-être.
Toi, j'imagine ça te parle parce que c'est aussi au centre de tes recherches en tant qu'universitaire. C'est question de migration, de culture qui se mêle, etc.
Ouais, absolument. Alors bon, moi, je suis sur des sujets un peu éloignés du reggaeton, mais c'est vrai que le fait migratoire est au centre de ma recherche. Et c'est ça ce que je disais par rapport à ces histoires linéaires qu'on entend beaucoup. En réalité, l'histoire est faite de circulation et d'hybridation. Et le reggaeton, c'est l'exemple paradigmatique de ça. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le reproche qu'on fait au reggaeton, c'est que c'est une musique qui est stéréotypée, qui a une base instrumentale qui est très répétitive et pauvre. Alors qu'en réalité, quand on creuse un petit peu, on voit la richesse. Évidemment, je suis biaisé, mais je sais pas ce que vous en pensez.
Il y a plein d'influences.
C'est que quand on décortique un petit peu, on voit.
Je trouve que c'est vrai. Et pour autant, il faut avouer que, tu vois, avec les premières écoutes, le dembow est tellement omniprésent
que tu
peux trouver ça redondant, objectivement. Ouais. Mm-hmm. Et que c'est ensuite dans la finesse, et si tu as une écoute un peu plus, si ce n'est analytique, en tout cas un peu plus dans la nuance et en comparant aussi les éléments de comparaison, qui te permettent de voir qu'effectivement, en fait, il y a différentes cultures presque qui s'expriment au sein du reggaeton aussi.
Ouais, mais en fait, c'est ce que disait Laurent De Wilde, je sais jamais comment on dit.
De Wilde. De
Wilde, hein, qu'on avait reçu dans cette émission, qui disait que, on était sur un moment dans l'histoire de l'humanité où la musique, c'est des motifs qui se répètent. Mm-hmm. Et où effectivement, ça change des symphonies qui pouvaient durer 50 minutes avec des trucs différents.
La boucle, c'est un truc important.
Ça loupe, en fait. C'est normal. Donc, je trouve que, justement, au contraire, c'est complètement en phase avec ce qu'est la musique au moment où ça sort. On est en plein dedans, quoi.
En fait, le truc avec le dembow, c'est que c'est vraiment la force et la faiblesse du reggaeton, tu vois. C'est-à-dire que si t'es allergique à ça,
ça va
tu vas pas pouvoir passer à côté, c'est sûr. Ça va être par contre, si tu kiffes, bah il y en a. Tu vois, moi des fois je m'écoute les playlists reggaeton sur les plateformes de streaming. J'enchaîne 40 titres à la suite. Il y en a pas un qui me saoule, tu vois. Ouais. Mais voilà. Après,
parce que toi, t'as l'oreille suffisamment éduquée pour justement voir aussi les petites variations, les petites influences.
Aussi, mais vraiment, je kiffe le dembo. Non mais tu vois, non, vraiment, ce Tuka, il vient me prendre là. Il y a pas mal d'intervenants aussi, d'intervenantes d'ailleurs dans le document. Qui dit ça quand j'écoute, ça me prend les tripes, ça.
Ouais,
mais tu sais, dans la musique, il y a plein de choses. Nous, on a essayé de ramener le côté analytique, etc. Mais il y a des choses au bout d'un moment qui sont difficiles à expliquer. Ouais. Tu vois. Ouais. Et finalement, bah, il y a des musiques qui font plus danser que d'autres, en tout cas qui font plus danser dans des contextes que d'autres. Et je pense vraiment que cette rythmique là, elle marque tellement le temps aussi. Tu vois, en fait, 1, 2, 3, 4, bah t'as la tout 4 ou 4 ou 4 ou 4 au niveau de la boîte à rythme, là, elle est tout le temps présente. Et du coup, t'es pour moi, je suis drivé. Tu vois, je suis happé. Vraiment par le reggaeton. Tu mets du reggaeton là, je te lâche un péreo direct.
Ça m'amène à vous adresser une question. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le reggaeton dans un contexte festif?
Pas du tout.
Non.
Ok. Parce que ça, déjà, je pense que c'est
pas
une
dans
autre
expérience. Les vraies soirées reggaeton, en tout cas, tu vois.
Parce qu'une des clés de la réussite du reggaeton, c'est aussi le fait que contrairement à d'autres musiques latino, le coût d'entrée pour pouvoir la danser, cette musique, bah en fait, il est très faible. Le reggaeton, il y aura pas des codes
formation de
salsa, tango, etc.
Et dans le documentaire, il y a un point très intéressant là-dessus, c'est de dire qu'on peut danser ça seul aussi. Et que ça change pas mal les choses.
Yopere au sol, là.
C'est clair. Bah,
mais ça, continue, Victor, pardon.
Bad Bunny,
J'étais un peu interrompu.
Non, mais en fait, ouais, c'était aussi... je pense que l'expérience reggaeton, elle se fait aussi, et peut-être surtout, dans des contextes festifs. Ou même dans sa voiture. Mais moi, personnellement, il n'y a pas d'endroit où je kiffe plus cette musique que en boîte de nuit ou dans ma caisse ou voilà. Et ouais.
Mais je me lance dans une hypothèse, mais tu vois, le truc c'est qu'il y a
Il y a
plein de gens qui savent pas danser, tu vois. Il y en a qui ont pas le rythme dans la peau, etc.
Donc là, ils me visent, clairement. Non, c'est une balle perdue, ça. Ça c'est grave.
Non, mais même pas.
Ouais, c'est j'avoue, ils te regardaient un peu en disant.
J'ai les lunettes de soleil. Non, mais pour dire, en gros, voilà, quand t'as pas le rythme dans la peau, etc. Bah selon le type de boîte à rythme sur lequel t'es en train de danser, il y en a qui arrivent même pas à faire le deux temps, tu vois, le 1-2, 1-2, 1-2. Et peut-être que même ça, le fait que le rythme soit si marqué dans le reggaeton, ça peut-être. Te donne une espèce de béquille, tu vois, où tu te dis, purée, je peux pas le louper, là, quand même.
Ce que j'aime bien, en plus, c'est que
ton two-step, tu le rentres, quand même.
Ce qui est intéressant, c'est que cette rythmique-là, le fameux dembo, en fait, fondamentalement, c'est une rythmique simple dans le sens où le kick, en fait, il est sur les temps, tout simplement.
Exact.
C'est du 4-4, c'est du classique. Ouais. Mais c'est juste le contretemps avec la snare, avec la caisse claire.
Exact.
Qui fait toute la différence. Et donc, à la fois, on y retrouve nos repères, notamment en tant qu'Européens où la musique est beaucoup basée sur du 4-4, etc.
Ouais.
Et en même temps, t'as ce contretemps qui, lui, un peu te surprend beaucoup plus et qui apporte ce truc syncopé, ce truc un peu plus groove. En plus, après, tu peux le faire légèrement le décaler, etc. pour apporter un plus amusé.
Justement, il y avait un beatmaker.
Dimad, qui dit exactement
ça. Qui dit qu'en fait, à la base, c'est. Tu peux avoir la rythmique sur la grille, justement, il utilise ce terme-là quand elle est vraiment calée sur les temps, et puis après, quand on le décale un tout petit peu, d'un seul coup, t'as le groove, tu vois, qui...
Ce qui est un truc classique du beatmaking, mais qui avec ce contretemps, effectivement, apporte tout de suite tu te balances, quoi, il y a un truc comme ça.
Ouais, non, mais moi, encore une fois, j'écoute du reggaeton depuis très très longtemps et je crois... Alors, en ce moment, il y a l'afrobeat aussi qui est quand même très chaud, mais dans les musiques festives, où tu veux vraiment passer une bonne soirée. Je suis fan de rap, j'anime une émission de rap, enfin, c'est ce que tu disais au début quand tu m'as introduit. Mais genre, moi, si je veux passer une soirée où je vais m'amuser, je vais pas écouter de la trap, tu vois. J'adore la trap, j'adore le boom bap, enfin, tu vois, voilà, mais... Il y a un moment où si j'ai envie de danser,
faut reconnaître.
Reggaeton et afrobeat, c'est intestable. Et notamment reggaeton. Et moi, vraiment, tu me mets une soirée où il y a 4 heures de reggaeton, j'ai absolument aucun souci avec ça. J'en redemande.
Voilà. Oui, d'ailleurs, je précise, parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit en début d'émission, vous pouvez écouter Géos, c'est une hebdo, c'est tous les jours.
Non, c'est du quotidien.
Toutes les semaines.
Hebdomadaire, c'est Nayuno sur la chaîne Couleur 3, donc qui est rattaché, c'est un peu l'équivalent de Move pour la France. Et puis, on est les vendredi soir de 20h à 22h. Et si vous n'êtes pas en Suisse, vous pouvez vous connecter sur couleur3.ch.
Allez l'écouter, c'est très très bien, Nayuno.
Il y a tout ça,
ouais. Ouais.
Alors, du coup, je voulais revenir sur, du coup, l'hybridation, le métissage, où en fait, les mecs prennent donc le dembo, mais essayent d'infuser quand même leur musique traditionnelle. Mmh. Et ça, c'est vrai que pour nous, et je dis nous, tu sais, comme si j'étais un mec du move et tout, oui. Pour nous, côté hip-hop, même si on se base énormément sur le sample, on a beaucoup de mal aussi à admettre l'héritage musical. Par exemple, les rappeurs français, ils vont pas te mettre du Adamo ou du Serge Lama. Dans
non, mais ouais, l'afro-trap.
Ouais, alors, ouais. Mais c'est,
ce serait l'équivalent un peu, tu vois.
Je sais pas, parce que, tu vois, si je me place vraiment sur le prisme franco-français, ouais, c'est-à-dire ouais. que pour qu'un morceau il cartonne, il faudrait qu'il y ait de l'accordéon à un moment donné, tu vois, sais, un truc vraiment français, ouais, tu vois.
Tu sais, mec, aussi, ça, c'est une discussion qu'on avait eue d'ailleurs dans le podcast avec Ager sur les musiques arabes, à savoir que c'est très lié aussi à notre rapport, en France en particulier, à la musique. Notamment à la musique populaire, qui c'est toujours difficile de la légitimer, de la musique folklorique encore plus. Ouais. On est un pays quand même qui a eu un rapport avec ses cultures régionales, etc., compliqué, parfois les avec la répression, etc. Mmh. Et je crois que ça a marqué et qu'en fait on a perdu. En tout cas, c'est un fait. Est-ce que c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Mais à mon sens,
mais en fait, ouais, ça a jamais infusé aussi fort que
non parce qu'on n'a pas ce même latine, la musique dans le quotidien n'est pas présente de la même manière.
Ouais. Mais après, tu vois, si tu compares, là encore une fois, si je reviens sur le côté entre guillemets sociologique, le rap même en France, même s'il est ramené plutôt, c'est un processus top down, c'est-à-dire que c'est ouais. plutôt des bourgeois qui le ramènent, des fils de diplomates, etc., etc. Mmh. Mais après, il est quand même très vite récupéré par des gens des quartiers plutôt issus ouais. de l'immigration. Mais c'est un contexte un peu complexe, enfin tu vois, moi ouais. j'habite pas en France, mais en Suisse on a aussi, tu vois, enfin on est tous
de double pacte en Suisse.
Ah non là, salutations à double pacte évidemment, les petits boss aussi pour Genève hein, précisément. Mais pour dire, là je voulais en venir, c'est que le rapport à l'immigration il est différent aussi. Ouais. Tu vois par exemple. En France, on demande l'assimilation. C'est ouais. ce que je comprends.
Oui, c'est
aux
ça.
Aux États-Unis, ouais. c'est ta culture, c'est ta communauté, etc. Ouais. Donc les mecs, ils sont super. Il y a des latinos aux States qui parlent pas l'anglais.
Ouais.
Donc leur culture, elle reste hyper forte. Tu vois ce que je veux
ouais.
dire?
Et là, en plus, on parle. C'est pas de la cacher, en fait.
Exact.
Ouais.
Alors là, en plus de ça, on parle dans le contexte américain, si on prend les, par exemple, les portoricains de New York ou comme ça. Mais tu vois, mais finalement, le reggaeton, il se développe à Panama, à Porto Rico. C'est normal de faire infuser la salsa, etc. Ouais. Là où c'est moins normal dans le rap, si je prends le rap français,
ouais,
de lui rajouter, c'est déjà une musique étrangère, on se la réapproprie au niveau des quartiers, etc. Et puis en plus de ça, vu qu'on nous a demandé de nous assimiler, je dis nous, mais enfin ouais, t'as capté,
ouais,
bah c'est plus difficile, je pense, de faire rentrer des musiques que peut-être même nos parents nous ont un peu
mis de côté
pas, parce ouais. que c'était en mode vas-y, il faut que tu t'intègres.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
Donc non, là, encore une fois, hein, je suis pas expert au niveau sociologique, mais je me dis peut-être.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un facteur qui joue effectivement sur le côté assimilatoire de la France.
Ouais.
En tout cas, c'est un rapport aux migrations et à la musique aussi, au-delà même en fait des questions de migration, etc., de comment on vit au quotidien avec la musique. Et effectivement, c'est quand même beaucoup moins présent en France. Mais
tu vois, excuse-moi pour compléter sur la comparaison, le hip-hop au niveau américain, c'est des Jamaïcains qui le créent.
Ouais, tu vois,
Cool Herc, les Grand Master Flash et tout, je pense même KRS-One est d'origine jamaïcaine.
Ouais.
Et les mecs, au début, bah, tu le disais très bien, c'est aussi le cas dans le rap français d'ailleurs à un moment, mais le rap et le ragamuffin sont hyper liés.
Le rap raga dans les années 90.
Tu sais, des mecs comme Busta Rhymes, ils hésitent pas, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en plus, je crois qu'il est d'origine jamaïcaine aussi, Busta, mais à lâcher des phrases en yardie, etc.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Donc, peut-être là, c'est la comparaison peut-être un peu plus directe au niveau rap, c'est-à-dire les mecs, leurs propres racines, tu vois, ou alors si tu prends, je sais pas, Wyclef au niveau hip-hop qui a aussi très vite ramené des trucs haïtiens dans sa musique hip-hop, tu vois.
Ouais, complètement, t'as raison.
Donc voilà, pour prendre un des cas peut-être un peu plus comparable, parce que le rap en France, c'est déjà une musique importée, donc en plus de ça, le rap.
Mais justement,
ça
veut dire qu'il pourrait, putain, prendre du Yvette Horner ou des trucs, ça, Serge Reggiani, balancer des trucs.
Ouais, pourquoi pas. Mais après, ça se fait, regarde, Aznavour, ça a été samplé par les Américains aussi.
Ça a été samplé par les Américains, c'est ça le truc. Tu vois.
Mais après, tu vois, quand Booba il fait tu sais, quand il prend Souchon là, Adieu mon pays là, c'était un super morceau.
Ouais,
tu te rappelles de ça? C'était sur l'album DUC, qui est d'ailleurs un album où il y a un magnifique featuring avec Farruko,
okay.
donc de reggaeton.
Okay.
Mais bref, sur ce morceau là, Booba il reprend Adieu mon pays, qui est il reprend le morceau de Alain Souchon.
Il a repris Mistral Gagnant aussi. Ouais.
Aussi, et ça donne des trucs géniaux d'ailleurs.
Donc il faut vendre un million pour accepter ton héritage musical.
J'ai vraiment le faire. Peut-être pour, avant de passer justement à l'internationalisation du reggaeton, de parler de son influence sur la scène mondiale même, y compris en France, etc. terminer avec un morceau d'un pionnier et peut-être qui serait un peu représentatif de comment ça peut se réapproprier aussi des cultures musicales plus locales. Ça peut être de la cumbia. Je sais que même à Cuba, je l'ai appris dans vos documentaires, on parle de cubatón aussi. Donc, est-ce que vous auriez un morceau qui pourrait être un peu emblématique de ce mélange?
On va arriver à Gasolina. Hein. on va y arriver.
Est-ce qu'on mettrait un Don Omar?
Omar ou Lo que pasó pasó, Daddy Yankee côté salsa, qui est vraiment un gros classique.
On n'a jamais écouté assez de Daddy Yankee.
Je me permets juste pour pas nous. Qu'on oublie que la parole qu'on porte aujourd'hui, on le fait au nom des autres personnes qui ont fait ce documentaire avec nous.
Donc c'est vrai.
Donc Stéphane Reyna, Julien Girardin et Ishi Khalad, et qu'on salue.
Tu fais bien les citer et merci les gars aussi pour ce taf. Voilà. Allez, on s'écoute un petit bout. De Lo que pasó pasó, c'est ça, de Donkey, d'Ali Yankee?
Yes, ça y est.
C'est parti.
Il faut s'imaginer là en boîte de nuit, là.
Yeah! Ouais, bon, ok, très clairement, le côté salsa, là, on le trouve, hein.
À fond, bah ouais, t'as toutes ces influences. Et puis ce qui est trop beau, moi je trouve aussi, tu sais, quand on parlait d'héritage et tout, parmi il y a des vidéos, mais après ça c'est quand t'es fan évidemment, mais tu regardes par exemple au Latin Grammy Awards, des fois t'as des vidéos un peu des backstage et tout, où les artistes entre eux, ils se captent, ils font des stories, des trucs, et ils chantent des immenses classiques de salsa, ils sont tous en train de danser, chanter entre eux et tout. Et ça c'est un truc... alors je sais pas à quel point les tout nouveaux reggaetoneros vont continuer de garder ça, mais tu vois ce côté pas avoir honte de l'héritage, ça peut-être c'est un truc. Tu vois, des fois même au niveau rap, on est en train de dire aux jeunes, mais vous connaissez même pas les anciens du rap, tu vois.
Ouais, c'est fou ça. Ouais.
Là en général, les gars ils connaissent même.
Ils connaissent leur classique.
Mais encore une fois, c'est lié au truc culturel, tu vois. Même à Genève, les latinos que je connais, qu'ils soient dominicains, colombiens, etc., ils ont ce truc de garder une espèce de réunion de famille communautaire, faire des barbecues. On va écouter les classiques de la salsa.
Garder un patrimoine,
forcé, tu vois, exact.
Et d'ailleurs, musicalement, c'est intéressant de voir que les nouveaux morceaux de reggaeton sont remplis de références aux anciens morceaux.
Ah ouais, complètement. Ouais.
Le mouvement est suffisamment mature pour s'auto-référencer maintenant.
Exactement.
Mais est-ce que les nouveaux qui référencent le reggaeton ont conscience que le morceau qui référençait déjà autre chose d'avant, tu vois? Est-ce qu'on va se retrouver comme avec un co-baladé qui sait pas qui c'est Ayam, tu vois, c'est ça le...
Je pensais notamment à ça. Alors j'avoue que au niveau un peu des interviews des jeunes artistes reggaeton, là j'ai un peu moins suivi ces derniers temps, mais je pense quand même, tu vois, par exemple, je crois que c'est, je sais plus si c'est Mike Towers ou Jay Cortez, un d'entre eux là, qui a repris Dilé de Don Omar justement, et Dilé de Don Omar c'est un immense classique aussi, tu vois, du reggaeton. Et je pense quand même, vu le background et les habitudes que ces artistes ont, je pense qu'il sait, il sait tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça ramène.
Et surtout, en fait, ces nouveaux artistes collaborent encore avec ces gens. Et ça c'est une spécificité. On en parlait en arrivant là dans le train. Peut-être une des singularités du reggaeton, c'est le nombre de collaborations. C'est-à-dire que au lieu d'être dans une optique de rivalité, bien qu'elles existent, hein, on a parlé de Daddy Yankee, Don Omar, c'est connu, ils s'envoient
de la... Jay-Z Nas, Daddy Yankee, Jay-Z Nas.
En fait, ils s'envoient beaucoup de ce fort. Et c'est intéressant de voir la prolifération des remixes. Des fois, ils sont 6-7 sur un même remix. Et donc ça, c'est, je crois, un des éléments identitaires de cette musique aussi.
C'est beau, c'est aussi un héritage, je pense, de la culture dancehall, tu vois, du rhythm où on récupère la prod de quelqu'un d'autre et tout. Sauf que là, c'est officiel, tu vois, genre, t'as un morceau qui est un hit, bah, du coup, t'auras le remix. Et sur le remix, ce sera pas avec n'importe qui. T'auras les 4-5 artistes les plus chauds du moment qui vont poser sur le remix. En fait, je sais pas, dans ces 5 ou même 10 dernières années, dans les gros remix de reggaeton, mais c'est, tous sont dignes des meilleurs castings, si je fais encore une analogie, d'un album de DJ Khaled. Tu as DJ Khaled, mais c'est une fois par année un album de DJ Khaled où t'as un morceau, où t'as Jay-Z, Lil Wayne, Rick Ross, pour citer le dernier, tu vois. Bah là, par année dans le reggaeton, t'en as 3 ou 4 des blockbusters comme ça, tu vois.
Et donc en plus de ça, ils font mouche. Du coup, c'est un peu l'esprit limite associatif. Alors que les mecs vendent comme pas possible, quoi. Donc ils ont gardé quand même la candeur et la fraîcheur des débuts. Parce que ça, c'est ce qui se passe quand un truc se lance, où tout le monde ouvre les portes pour tout le monde, machin. Ouais, venez les gars. Normalement, effectivement, quand t'as atteint un certain niveau
Bah, si tu fais la comparaison avec le rap français, par exemple. Alors, encore une fois, là, on compare des choses qui sont, il y a plein d'autres facteurs. Mais tu vois, le rap français, des gros morceaux où t'aurais Booba, Rof, enfin, évidemment, on sait qu'on peut faire un biff et tout. Mais tu vois ce que je veux dire?
Bah. C'était au début.
Voilà.
Tous ces feats-là, ils étaient exact. Au début du truc, quand les mecs commençaient leur carrière.
Première classe, des trucs comme ça.
Exactement.
Je sais pas, même là, maintenant, quand j'y pense, dans le rap français, dernièrement, des trucs où t'as des all-star team, tu vois, c'est...
Peut-être
dans les grands paris de médias.
Très organisé.
Ah ouais, quand même, ouais,
et c'est aussi l'équivalent Marseille-Paris qu'ils ont fait aussi, je m'appelle
le Classico.
Classico.
Ouais, non, mais t'as raison.
Il y en a
ça
certains,
se refait un peu.
Ça se refait.
Il y a un moment où ça s'est grave perdu, tu vois.
Bah ouais, parce que chacun était sur sa carrière et sur ses ventes.
Ouais, et parce que aussi, derrière, t'as un mec qui a cette capacité à fédérer, en l'occurrence. Jules, ouais. Et peu de gens, je pense, peuvent prétendre ça, tu vois, dans le rap français.
Jules, qui est un rappeur français qui a beaucoup repris des rythmiques reggaeton.
Ah, vous savez quoi?
Transition toute faite.
On passe à l'internationalisation du reggaeton. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est, comme ça, on affichera un petit truc dans la vidéo, et puis on écoute quand même, vous m'avez dit qu'il y avait une grande rivalité entre Daddy Yankee et Don Omar.
Ouais.
Il faut qu'on mette un peu de Don Omar aussi pour équilibrer les choses. On parlait de delay, on se met un petit extrait.
C'est parti.
Très plus merengue d'ailleurs là.
Et allez.
Juste, est-ce que je peux, enfin, je sais pas sur, tu, parce que sur, peut-être l'internationalisation, on risque peut-être de manquer un truc, c'est, justement, parce que là, ça me fait penser à ça, tu vois, ce qu'il est en train de dire. C'est qu'en fait, le propos du reggaeton, et ça, c'était aussi ce qu'on a essayé d'introduire dans le documentaire, c'est de la nuance, c'est-à-dire qu'on est fan de reggaeton, mais moi, je pars du principe, et on est, je sais qu'on est raccord là-dessus, que quand t'aimes quelqu'un, tu dois lui dire quand il fait de la merde.
Ouais.
Et en l'occurrence, le reggaeton a aussi ces travers-là dont on parle pas mal dans le documentaire. Ouais. Donc, je sais pas si tu voulais aborder ça maintenant.
On va en parler.
Ok, d'accord.
Vous pensez que...
En l'occurrence, là, je parlais de sexisme. Ouais,
ouais, parce que ce morceau te pose problème, par exemple?
Non, mais plus tu as là-dedans, il dit, dis-lui que je suis meilleur que lui, etc. Il y a toute cette performance masculine, irrité. Tu vois, le truc de je suis meilleur que ton gars, etc.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, il y a de l'enthousiasme autour de cette table pour cette musique que vous aimez, mais vous avez aussi un regard critique, effectivement, que vous développez dans le documentaire. Et ça sera la troisième et dernière partie de ce podcast. On va en parler de tout ça.
My bad.
Mais juste pour, tu vois, là, on comprend maintenant le sérail, un peu les origines, les racines, comment ça se développe, etc. Mais pour en arriver quand même à la situation d'aujourd'hui, et parce que dans l'optique aussi d'un regard critique, c'est intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui, parce que justement, ça donne des billes aussi pour dire, vous voyez, c'est pas que ça, il y a des choses qui se passent, etc. Donc, on en parlera promis, mais comment ça se passe un peu cet essor, tout d'un coup, c'est, on va dire dans les années 2000, il y a quelques tubes quand même dans les années 2000 qui commencent.
C'est Gasolina ou c'est quoi?
C'est ça.
On l'attend là.
Il l'attend.
Comment ça se passe un
alors,
peu
alors peut-être juste quand même pour être précis, je pense qu'un des premiers hits mondiaux reggaeton, c'est quand même Lorna Papichulo.
On est
pas obligé de l'écouter mais.
Non, mais si,
on n'a pas écouté de meuf en plus.
Allez. C'est plus rapide là, non?
Un peu plus rapide.
Ça passait en France.
Bien sûr.
Énorme tube. Donc là, on est quoi? On est en 2000, Lorna?
Non, je crois que c'est 2002.
2003, effectivement.
Ouais,
je vois 2003, tout à fait. On commence à avoir comme ça quelques tubes qui pètent au-delà de la sphère d'influence historique, entre guillemets, du reggaeton, c'est ça?
Il y a cette connexion avec les States. Peut-être qu'on pourrait parler de Oye Mi Canto.
Qui est un tout petit peu plus parce que Gasolina c'est quelle année? C'est 2005 aussi?
Alors je crois que le morceau a été fait en 2002 mais il a été diffusé dans le cadre de l'album Barrio Fino 2004.
À 2004, ok. Parce que les Oye Mi Canto c'est encore aussi c'est juste après.
Mais là on est vraiment sur un moment d'effervescence. Ouais, 2002, okay. 2003, 2004, 2005, c'est là que ça explose. Et puis
t'as raison.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Non mais t'as raison. Parce que c'est vrai que Oye Mi Canto en fait, il y a les passages, il y a les vraies connexions. Autant donc on l'a dit, le reggaeton prend l'influence du rap. Tu vois, ils ont les connexions avec New York, Porto Rico, ils ont les connexions avec New York. Les gars, toast de moins en moins d'un point de vue ragamuffin aussi, tu vois. Enfin, il y en a plein de morceaux où ils sont vraiment en train de rapper ou alors carrément chanter. Mais il y a peut-être un peu moins ce côté toast. Donc on perd un peu progressivement, tu vois, l'influence jamaïcaine, même si encore une fois la rythmique dembow reste là, mais je dis dans le chant lui-même. Et donc là, t'as le rap américain qui va pas mal les influencer. Et là, t'as, je pense ne pas dire de bêtises, deux projets qui sont charnières au niveau des passages de culture. T'as Tony Touch, le DJ new-yorkais d'origine portoricaine, qui fait un album qui s'appelle The Reggaetoni Album. Qui est vraiment uniquement basé sur des collaborations entre rappeurs, reggaetonneurs, chanteuses reggaeton, etc. Dedans, il y avait notamment Go DJ Play That Song. Est-ce qu'on les...
Allez, on peut se mettre ça, un petit extrait rapidement.
Ça, vous le connaissez, on va pas s'en sortir.
Je vais te dire.
Ah bah oui, mais c'est... qu'est-ce qui chantait ça déjà
de Nina base Sky. C'était Nina Sky. Ah, le truc de base, ouais. Ah, alors ça, par
Keep
contre.
Keep me dancing all night. Non, bah c'était... Il y avait AZ qui avait repris ce truc-là avec en vogue.
Ah ouais, ok.
Il y a un petit truc aussi dans ce morceau de R&B contemporain aussi, quand même, je trouve.
C'est devenu
une vibe assez américaine, quasi R&B quand même, dans le refrain, par exemple. Tu vois,
alors, Nina Sky, il faudrait pas que je me... Mais non, mais je suis presque sûr, c'est des sœurs portoricaines, en tout cas des Caraïbes latines, mais basées à New York. Donc, encore une fois, c'est toujours ces mélanges-là. Donc, je sais que cet album-là marque une première grosse connexion. Puis après, t'as Nori. Donc Noriega de CNN, qui est un groupe classique du Queens, rap dur, reproduction DJ première et tout. Ouais. Et lui, il est moitié afro-américain, moitié portoricain en termes d'origine. Ouais. Et je pense qu'il voit la vague arriver, etc. Et puis j'imagine quand même qu'il kiffe aussi ça.
Un des premiers qui a fait les crossovers avec Fat Joe aussi.
Exact. Ouais, mais alors c'est intéressant parce que Fat Joe, je crois avoir vu des interviews au début, il était un peu sceptique
parce
à l'encontre de
lui,
ce truc-là.
Lui, c'était Boom Bap à l'ancienne.
Exact.
Ouais.
Mais effectivement, là où t'as raison, c'est que Fat Joe est sur... il est sur quelle compilation les Mass Maïs et tous ces trucs-là. Là. Bref, je sais plus, mais je sais qu'il est sur 2-3 collaborations
parce
après.
Parce qu'il y avait Fat Joe, il y avait Big Pun aussi qui lui, on reniait pas du tout l'héritage...
Mais salsa.
Ouais.
Du coup, les samples de Tito Puente, tous ces trucs-là et tout. Ouais. Mais tu vois, parce qu'en fait, même au niveau latino, alors encore une fois, là, j'ai des origines des Caraïbes et tout ça, mais je suis pas portoricain ou quoi que ce soit, donc je connais pas parfaitement. Mais j'ai cru comprendre que effectivement, même les salseros et tout, au début, quand tu vois débarquer le reggaeton, il y a quand même ce côté.
Ils le prennent d'eau.
C'est de la musique. Mais la même chose qu'avec le rap, c'est pas de la musique avec instruments. Il y a quand même un discours, tu vois, très vulgaire au niveau du rap, etc. Donc il y a aussi ce conflit générationnel.
Bien
et
sûr,
tout, tu vois.
Comme partout, en fait, à chaque fois qu'un nouveau mouvement SM, forcément, exact. Les mecs qui étaient là avant, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois.
Exact. Et donc je pense que des mecs comme Fat Joe, Big Pun, je sais pas, je me rappelle pas avoir vu des morceaux de lui, évidemment, il est décédé récemment, mais où ils étaient vraiment super connectés avec cette culture-là, mais peut-être que tu vois dans le côté rue
Pour moi, en tant que simple auditeur, quand t'écoutais le Terror Squad, donc toute leur équipe, t'avais quand même une influence latina dans...
Ah non, mais complètement.
Que tu retrouvais pas parce que quand t'écoutais Capone Noriega.
Ouais.
Ah oui, dans ce sens-là, ok.
Tu vois,
okay.
Street, c'était cru, mais c'était le Queens, tu vois. Ouais, Noriega, il a fallu qu'il parte en solo pour vraiment accepter cet héritage-là et commencer vraiment à faire du son avec, parce que à l'époque, les mecs, ils étaient en camouflage dans la rue tout le temps, tu vois.
Militaire, les albums au téléphone avec Capone qui est en prison et tout. Non, bien sûr. Mais du coup, peut-être pour revenir sur le Noriega, Nori, il sort un album justement dans le milieu des années 2000, sur lequel il y a ce fameux single Oye mi canto, qui veut dire écoute mon chant, hein, c'est ça. Et sur lequel il y a Nina Sky au refrain, il y a Daddy Yankee, il y avait une première version avec Tego Calderon, en fait. Donc, Nori featuring Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato et James Starr. Et mec, là, je me rappelle, on avait MTV France aussi en Suisse. Le morceau, il était matraqué de gueudin, tu vois.
Vas-y, balance.
Ouais, vas-y, Nori.
Ah bah oui, d'accord. Moi je connaissais pas le titre, mais oui.
Ben oui, ah, tu connaissais pas,
en fait, je, du non, du je, nom, non, je connais pas, ouais, Oye Mikroto.
Ouais, absolu, moi non plus, je voyais
moi,
pas.
J'ai appelé ça Boricua Morena, tu vois.
Ouais, ouais, c'est ça. En plus, le clip est hyper rassembleur, tu vois. Il y a tous les drapeaux de l'Amérique latine, des Caraïbes latines, etc. Donc, il y a vraiment un truc en mode, là, on part à la conquête du monde, ouais, tu vois.
Est-ce que c'est un peu, d'une certaine manière, peut-être Victor, tu peux nous en parler, c'est à travers le hip-hop, comme ça, que ça aussi, que ça aide à s'exporter, parce qu'il y a du futuring, etc. Ou c'est, il y a aussi des artistes latinos qui arrive petit à petit à toucher quand même le reste, la planète entière, en fait, à ce moment charnière un peu des années 2000.
Alors, moi, je peux parler de mon expérience. Ouais. Donc, mes parents sont espagnols. Ils ont migré en Suisse dans les années 60 et 80, respectivement. Et du coup, moi, je retournais, en fait, en Espagne chaque été pour y passer mes vacances. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un vrai décalage entre ma vie en Suisse et puis celle que je menais en Espagne d'un point de vue...
Tu étais un détraqué total à Péréo toute la journée.
Non, mais d'un point de vue de mon expérience musicale, en fait. Ouais. Parce que en réalité, le reggaeton, c'est déjà une musique dominante depuis le début des années 2000 en Espagne. Et donc là, il y avait déjà une diffusion qui se faisait par le biais de la langue et puis de l'histoire compliquée entre l'Espagne et l'Amérique latine, notamment liée à la colonisation. Et donc pour moi, c'est pas tellement le vecteur états-unien qui a été déterminant. Et je pense que le reggaeton s'est infiltré assez largement en Europe par le biais notamment de l'Espagne.
Où
en fait le reggaeton demeure très fort. Par exemple, là, je porte encore au poignet un bracelet de festival qui s'appelle le Reggaeton Beach Festival, qui est un festival massif qui a lieu en Espagne dans les principales villes espagnoles. Et le reggaeton est presque un art de vivre pour beaucoup de personnes, bien que ça soit pas le pays qui l'ait enfanté. Et d'ailleurs, on pourra peut-être y venir, mais certaines des personnes qu'on a eu l'opportunité d'interroger dans le cadre du documentaire, comme Miss Nina, qui est argentine d'origine, elle travaille essentiellement en Espagne et elle se positionne sur la scène underground reggaeton espagnole. Donc, pour moi, ce canal-là était important.
Mais d'ailleurs, DJ Eldani, qui est aussi dans le documentaire, il disait que mine de rien, en France, et du coup, c'est la même chose pour la Suisse, vu qu'il y a des fortes communautés portugaises et espagnoles, ils ont aussi clairement participé à la transmission de cette culture, quoi. Mais en tout cas, pour revenir sur ta question principale par rapport au hip-hop et tout, en fait, à cette époque-là, c'est intéressant parce que je pense pour l'internationalisation, les reggaetoneros ont quand même besoin, tu vois, du hip-hop pour être diffusé un peu plus largement. Puis en fait, plus tard, on le verra.
C'est inversé.
C'est presque inversé, tu vois.
Parce que est-ce que cet essor comme ça sur toute la planète, il se fait avant tout, c'est les artistes phares déjà du reggaeton qui arrivent à s'exporter, ou est-ce que ça passe aussi par du futuring, est-ce que ça passe par des artistes pop internationaux qui eux-mêmes se réapproprient, comment ça se passe?
Alors, là justement, je venais de regoogler, mais pour être sûr de la date, mais tu vois, en 2005 aussi, t'as ce fameux morceau de Shakira avec Wyclef Jean qui s'appelle Hips Don't Lie.
Ouais. Oh là là.
Qui est un méga hit.
On est dans le reggaeton, là?
On est complètement dans le reggaeton. Ah
ouais. Mais c'est
un vrai rythmique. Ouais,
totalement.
Ça pose
peut-être.
Et Shakira est d'origine libanaise colombienne, tu vois, donc là aussi.
Mais ça pose la question de qu'est-ce que le reggaeton? Parce que, à titre personnel, j'aurais tendance à dire que la rythmique est l'élément déterminant. Disons qu'il y a deux composantes, rythmique et péréo. Mais il y en a qui diront, est-ce que là, on est sur des versions qui sont très pop? Est-ce que ça, c'est véritablement du reggaeton? Est-ce que ça trahit pas, l'histoire de cette musique-là? Est-ce que, et ça, c'est des débats qu'on a eu tous les deux, est-ce que si on fait du reggaeton dans une autre langue que l'espagnol,
Est-ce que c'est du reggaeton?
Et t'as des arguments qui sont imparables.
Non, mais je vais même pas rentrer dans le débat, mais vas-y, je connais.
Non, mais je te laisse terminer. Parce que les gars, là, on fait une autre émission, on en fait une deuxième.
Ça régularise l'écoute de cette boîte à rythme dans l'espace.
C'est le pied de biche qui permet d'ouvrir la porte.
On s'écoute le Shakira pour voir si on y retrouve effectivement du reggaeton avec le recul comme ça, là.
Ah déjà la trompette là. Ha. Même moi j'aimais pas et pourtant j'aimais bien. No fighting.
Shakira. Ah oui. On y est un peu.
Il est là. Il est carrément.
Non mais on peut dire que c'est pas du reggaeton mec là. Boîte à rythme et reggaeton. On pourrait.
Mais du coup dans l'absolu alors parce qu'il y a le côté il faut chanter en espagnol parce que Despacito la boîte à rythme et reggaeton.
Mais c'est du reggaeton, c'est pas chez toi, non?
Luis Fonsi, ça... c'est un chanteur pop, plutôt.
Ouais, je trouvais ça plus pop.
Qui fait un feat avec
aussi.
Un reggaetonneur.
Voilà, ah, c'est ça. Mais il y a quand même un feat dessus, ok. Ouais, ah oui, c'est avec Daddy Yankee. Bah oui. Bien sûr.
Juste pour
bien préciser. C'est quand même dans la culture reggaeton, puis que tu
Ouais, parce qu'il y a Daddy Yankee.
Non, mais juste pour bien préciser, mon argument, qui est pour moi définitif, c'est les gars.
Ils veulent caler comme jamais. Allez, vas-y.
Est-ce que le rap français est pas du rap parce qu'on rappe en français alors qu'originellement, c'est un art en anglais, tu vois?
Pour moi, ce débat est clos, voilà.
En vrai, il a complètement raison. Je suis désolé.
Non mais il est pas forcément. Je crois pas que t'es aussi polarisé que ça.
Mais non.
T'es pas fou quand même.
Ça veut dire qu'il y a
j'aime bien faire l'avocat du diable.
Non mais ça veut dire qu'il y a des reggaeton. Il y a des reggaeton heads hardcore qui disent ah non si c'est pas en espagnol c'est pas du reggaeton.
Ah oui.
Ça doit exister ça.
Non mais même tu sais on parlait avec Driver donc salutations à Driver qui est donc un rappeur français,
podcasteur,
reggaetonneur, podcasteur vraiment d'immense talent, quelqu'un multitask et. Lui nous disait que quand il parlait avec des, parce que lui il a des vraies connexions aussi avec des artistes de là-bas, il a fait des collaborations avec des artistes reggaeton et tout, et il disait que c'était un peu partagé. T'en as vraiment quand ils entendent des gens faire avoir une rythmique reggaeton mais rapper ou chanter en français, ils disent qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Mais là on parle des artistes originels, tu vois.
Ouais.
Mais après, alors le gros débat de comment est-ce qu'on classifie un genre musical, pour moi la rythmique c'est quand même hyper important.
Ouais, mais alors écoutez, si on écoute ce morceau alors qui est un peu plus récent, mais
oh non,
tout de suite
là,
le reconnaître.
Violent.
Non mais écoute.
Ed Sheeran.
C'est Ed Sheeran, Shape of You.
Ouais, qui a collaboré avec J Balvin récemment.
Est-ce que. Est-ce qu'on n'est pas. On n'est pas très loin du dembow quand même.
C'est de la pop.
Faut que ça parte un peu.
Ouais, mais c'est presque
du coré. Non, mais c'est presque plus dancehall.
Ouais, on est plus dans les autres.
En
tout
cas, je suis d'accord.
Tu vois, il y a un truc.
Il y a une ossature qui va se ra. Mais tu sais, c'est comme Angèle, son premier hit. Comment s'appelait la loi de Murphy, la Murphy's Law. Vous vous rappelez de ce morceau?
Ouais.
Le premier morceau qui était un hit de Angèle. Bref, non, mais c'est pas vraiment du reggaeton, mais c'était une des sonorités dancehall. Alors qu'elle, on dirait jamais qu'elle fait du dancehall, évidemment. Ouais. Mais il faut être. Tu vois, c'est dans les deux sens, je trouve. Il faut être honnête avec le fait que quand un artiste s'inspire de quelque chose, il doit quand même connaître d'où vient, même si c'est un peu lointain. On doit être capable de lui dire, gars, là, quand même. Ça, le même en filigrane, il y a quand même une sonorité reggaeton.
Après, est-ce que les artistes, eux, pop, ils ont cette conscience-là ou tu vois, parce que Taylor Swift, des fois, elle prend des trucs, c'est du hip-hop, tu vois, et tu fais, je suis pas sûr qu'elle soit au courant que.
Si, je pense.
Elle, c'est juste, c'est ce qui marche, donc let's go, tu vois.
Dans le cas du rap français, typiquement, tu vois, c'est ouf parce que, je sais pas si on est dans la thématique de
l'internationalisation. Ouais, on y est.
Ils ont appelé ça la Zumba, tu vois.
Ouais, c'est marrant.
Parce qu'en fait, c'est une manière détournée. Parce que la Zumba, pour être très très précis, la Zumba, c'est une danse, athlétique. C'est un truc qui a été créé en mode pour les fitness, pour faire de la danse et
cardio,
perdre du poids, quoi, voilà. Et on va dire la bande originale de la Zumba, c'est le reggaeton, tu vois. C'est les DVD officiels de Zumba. La Zumba, c'est une marque même, je crois. Donc là, le truc officiel de ça, les coachs de fitness qui donnent ces cours-là, de base, c'est du reggaeton.
En tant que tel, c'est pas un genre musical, la Zumba.
Non, justement pas, c'est une danse.
Mais en France, c'est quand même utilisé de manière péjorative.
Mais c'est ça. Mais au début, ça a été utilisé de manière péjorative. Je pense même retracer ça au clash entre Rof et Maître Gims sur Twitter. Quand justement Maître Gims était arrivé avec les Bella, etc.
Ouais.
Et Bella est un morceau avec une sonorité reggaeton. Et Rof lui a dit retourne à faire ta Zumba. Et je crois que là, mais ça a été officialisé.
C'est un terme qui aujourd'hui encore est utilisé. Enfin, moi perso, quand j'utilise le terme Zumba, c'est pour dire c'est quoi cette carotte, c'est quoi cette disque.
Franchement,
c'est un
peu
des deux, je pense.
Ouais, pas que.
Ah, en culture urbaine, en tout cas, quand tu dis une Zumba, c'est que c'est
il y a plein de mecs du milieu du rap qui parlent de Zumba de manière sérieuse.
Je vois ce que tu veux dire, mais nous, des fois dans l'émission avec DJ Vinsley que je salue, on aime bien dire, ah là, dans cet album, il y a une belle Zumba, tu vois.
Ah ouais?
Ouais, des fois, ça nous arrive.
Premier degré, genre, bravo.
Ouais.
Okay.
Mais encore une fois, c'est marrant de dire qu'en fait, c'est une espèce d'euphémisme pour ne pas dire que c'est du reggaeton français. Parce que tu vois, finalement, Bella, tu voulais l'écouter?
Eh ben, on va l'écouter. Parce que là.
On est obligé, par contre.
En France, parce qu'on parle. Ben oui.
Ok.
Là, on parle du fait que ça s'exporte. On a parlé d'artistes américains, de Shakira, etc. Et selon vous, même en France, il y a une forme de. Je sais pas si on peut parler de réappropriation, mais en tout cas d'influence qui se fait sentir.
Si. Bella, c'est ça à 300%.
Eh ben écoutez, on va voir Maître Gims. Bella.
J'ai envie de crever là. Pourquoi il chante alors qu'il sait pas chanter objectivement?
Si.
Non,
c'est chanté.
C'est un peu dur.
Quel troll.
Ah ouais. Bah oui, la filiation est...
Après, ce qui est vrai,
et là, il faut être tout à fait honnête, les gens, au niveau francophone, n'ont pas encore réussi ou pas encore voulu, c'est peut-être une question d'intention, mais à reproduire les mélodies de chant des artistes reggaeton. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce dont on va parler là, Jul, Aya Nakamura, parce qu'il faudra en mettre, Aya Nakamura a des super morceaux avec des sonorités reggaeton, ils et elles n'ont jamais les mêmes types de top line.
Ouais.
Que les chanteurs et chanteuses latinos produisent, ça c'est vrai.
Mais juste pour compléter en fait ce que tu viens de dire, ou plutôt pour construire là-dessus et répondre à ta question, et si on parle de Aya Nakamura par exemple, je sais pas si tous les artistes sont au courant que c'est du reggaeton. En revanche, les producteurs le sont souvent.
Ça, ils et, le savent.
Il
ouais.
y a un making of de Pookie. Qui traîne sur YouTube, où justement il y a les producteurs qui parlent
d'Aya Nakamura,
exact, et qui disent là je me suis inspiré du reggaeton.
Quand même. Sauf qu'il y a un clap à la place.
Ouais.
Dans
ce monde.
Elle est forte quand même celle-là.
Ah, c'est clair,
elle est forte.
Attends, okay. C'est parce que.
Allô.
Ah bah si.
Encore plus reggaeton, mais je sais pas si vous l'écoutez directement à la suite ou un peu plus tard. Il y a Copine. Copine, là, c'est au niveau de Aya Nakamura et de la boîte à rythme. C'est
on y est à fond. Allez, on s'écoute Copine aussi.
C'est trop bien, Copine.
C'est
aussi.
Parti.
Ouais, bah oui, tu vois.
Ouais. Complètement ça.
Après, je comprends que les artistes, tu vois, ils sont pas dans une optique musicologique de forcément capter quoi on est en train de faire. Mais t'as raison sur les producteurs, les beatmakers.
Ouais. Ça,
je pense qu'on sous-estime quand même le fait qu'une DA avec les choix artistiques, ils sont pensés aussi avec les artistes, alors avec leurs entourages, avec leurs producteurs, etc. Mais que c'est pas non plus uniquement genre, ah, j'ai entendu ça, ça a l'air cool. Et qu'il y a des gens quand même autour qui réfléchissent un peu à tout ça et qui ont certainement une vision, à mon avis.
Bah non, mais là, en l'occurrence, quand le beatmaker, il arrive avec son truc, il sait ce qu'il fait. Après, si ça plaît à l'artiste, moi je suis au contraire pas certain que l'artiste se dise attends, je vais faire une double thèse, un double doctorat en reggaeton pour être sûr que ça l'est, tu vois, ils vont dire ouais ça bouge, ça a marché, allez on y va, tu vois.
Après là, je vais moi-même nuancer ce que je viens de dire avant, c'est clair que ça pose toujours des questions en termes d'appropriation culturelle dans le sens, mais ça c'est de manière générale, pas que vis-à-vis du reggaeton, mais c'est sûr que si tu reproduis un type de son, c'est quand même cool de savoir d'où il vient et de pouvoir shout-out les personnes qui étaient là avant toi.
Bien sûr, mais tu vois, sais que...
Et ce qui est intéressant, même dans le rap français, et c'est vrai que c'est des questions qu'on pose rarement, mais est-ce que les rappeurs français qui produisent ou qui posent sur des rythmiques reggaeton écoutent du reggaeton? Moi, j'aimerais voir d'un point de vue curiosité. Question. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils kiffent, tu vois? Je pense que Booba, du fait qu'il habite à Miami et qu'il a fait des feats avec Farruko, etc.,
je pense qu'il aime ça.
Mais j'ai une question quand même, parce que... Cette internationalisation, on en a parlé en France notamment, avec là on vient d'avoir quelques extraits très précis. Mm-hmm. On aurait pu citer un peu aux États-Unis aussi, c'est beaucoup passé par les featuring, parce qu'il y a eu 3000 featuring avec les grandes stars du reggaeton actuel. On parlait de J Balvin, Bad Bunny, etc. Et avec des mecs comme Drake et compagnie. Quoi. Donc là on est vraiment sûr de
qui vont jusqu'à chanter en espagnol.
Ouais, Drake qui chante en espagnol.
Donc ça c'est un changement de paradigme majeur.
Absolument. Hein, on ne sait plus qui est le feat de qui en fait.
C'est collaboré, mais c'est aussi pour des anglophones, parler une autre langue que l'anglais.
Ouais. Et ça, c'est effectivement, ça démontre que d'une certaine manière, il s'intègre complètement.
Après, Drake, il est canadien. Peut-être que les Américains, ils l'auraient
pas fait. Justin Bieber a jumpé sur le remix de Despacito. Et il chante Beyoncé. Dans Mi Gente, au remix.
Et là, 2-3 mots en espagnol.
Il y en a énormément. Vous auriez un morceau qui ressort du lot, comme ça, un gros featuring, où le mec se met vraiment dans le truc.
Drake, c'est
génial en plus.
On dirait du PNL en plus. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta para mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Donc là, c'est Drake qui...
qui profite de Bad Bunny au final.
Je sais pas, alors pour le coup, Drake, vu qu'il est vraiment mis en plus tout à l'heure, tu en parlais de Bad Bunny, qui est l'artiste le plus écouté en 2020-2021. Bon, Drake vient de fêter ses 50 milliards de streams sur Spotify, carrément pour le Classico qui aura lieu là ces prochains jours. Le Barça change le logo avec le OVO, le label de Drake et tout. Drake est vraiment big quand même, tu vois.
Oui,
ça,
oui,
on va
oui,
pas lui enlever ça, mais en tout cas, je pense pas que ce soit genre le petit
fait,
à qui tu tends la main, tu vois. Genre, c'est pas Drake qui tend la main à Bad Bunny. Je pense que là, il y a du win-win, vraiment.
Ouais.
Il y a un exemple qui est donné dans le documentaire avec Maluma. Alors, Maluma qui est pas un pur artiste reggaeton, si je dis pas de bêtises, mais qui quand même aussi fait des trucs autour du reggaeton.
Quand même, hein, ouais. C'est juste, c'est la branche très pop du reggaeton.
Ouais, okay.
Je connais pas trop d'autres morceaux. Enfin, je sais pas s'il a des morceaux purement pop ou purement R&B Maluma. Je pense que ses gros hits, c'est quand même des gros hits reggaeton.
Ouais. Et ouais, tu veux.
Ouais, bah, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec Maluma, donc le feat avec Madonna, et puis là, bah, Roberto Burgos de Radio Latina pose poliment la question, à qui profite ce feat?
À qui profite ce feat?
Ouais.
C'est un profiteering.
Ouais, ouais.
Mais entre une Madonna qui est quand même globalement sur la pente descendante et un Maluma qui, à l'inverse, est en train de péter.
Ouais. Mmh. Et l'autre aspect, pour répondre à ta question sur l'internationalisation, c'est qu'avec Maluma s'ouvre la page de la Colombie. Et la Colombie, en fait, c'est une étape essentielle dans l'internationalisation du reggaeton. Et en fait, le reggaeton, après ce boom dont on avait parlé au début des années 2000, il commence un petit peu à s'essouffler. Il est moins soutenu par les grands labels. Et puis, en fait, il y a beaucoup de reggaetonneurs, qui, notamment Nicky Jam, qui vont s'exporter en Colombie, où il y a encore cet amour du reggaeton qu'ils ne trouvent pas nécessairement à Porto Rico. Et en fait, ils y voient des opportunités, pour avoir de l'activité, pour faire des concerts, etc. Mais aussi pour reconstituer une base, pour aller à la conquête du monde.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mouvements. Donc, il y a des Portoricains qui vont se relancer comme Nicky Jam en Colombie. Et là, par rapport à la dimension pop et puis crossover, il y a ce feat avec Enrique Iglesias en 2014-2015 qui fait une grande différence. Mais il y a aussi
Nicky Jam avec. Est-ce qu'on l'écoute?
Allez, on peut se mettre un extrait. Nicky Jam, Enrique Iglesias.
El Perdón, exactement.
El Perdón.
Ouais. Qui est tourné à Medellín.
Ouais.
Alors qu'il s'agit d'un artiste portoricain et d'un espagnol.
Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.
Allez, j'avance un tout petit peu. Parfait.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta.
Ça m'est. Oui, vas-y, continue.
Et puis, en fait, l'autre dimension, c'est qu'il y a des artistes colombiens qui vont émerger. Et c'était une hérésie à l'époque de se dire qu'il pouvait avoir des reggaetoneros qui ne sont pas portoricains. Mmh. Et là, il y a, dans un premier temps, J Balvin. Et dans un deuxième temps, précisément Maluma. Mmh. Et donc dans ce mouvement vers l'internationalisation, la Colombie a joué un rôle absolument majeur.
Alors moi j'avais une question justement, c'est que donc on a beaucoup parlé de la Caraïbe hispanophone, de l'Amérique centrale, etc. Est-ce que quand ce truc-là a pété à cet endroit-là, les mecs au Chili ou au Pérou, ils étaient embarqués dans le mouvement aussi, ou parce que nous on a tendance à considérer l'Amérique latine comme un truc monobloc, ce qui est complètement con parce que il y a littéralement 10 000 kilomètres de terre, tu vois, avec je sais pas une trentaine de pays. Est-ce que quand le reggaeton a pris, ça s'entendait vraiment sur tout le continent jusqu'en Patagonie, ou est-ce que c'est un truc qui est quand même resté très proche Amérique centrale plus Caraïbes?
Alors un bon indicateur, c'est les tournées.
Ouais.
Et genre tu vois par exemple, ça c'est un truc de dingue. Genre 50 quand il est vraiment au max de sa carrière, c'est milieu des années 2000 en mode G-Unit et tout.
Ouais.
Il fait une tournée des stades en Amérique latine et il part avec Daddy Yankee. Et ils font une tournée des stades dans toute l'Amérique latine. Et même il y a des interviews où tu vois 50 qui dit mais en fait j'étais pas prêt pour ça, c'est-à-dire que Daddy Yankee c'est notre parrain là dans ce cadre là, tu vois. Donc déjà là parenthèse par rapport au côté qui fait gagner à qui, tu vois. Mais en plus de ça, les tournées sont toujours méga big. Moi, quand je, donc, bref, je suis haïtien suisse né au Pérou, parenthèse fermée, mais pour dire que, ne me demandez pas pourquoi, mais tout ça pour dire que quand je retournais assez souvent au Pérou et les bandes originales, bandes son des discothèques au Pérou sont 95% reggaeton. Okay. Et ça, je te parle depuis 2002. En tout cas, moi, j'y retourne depuis le milieu des années 2000, justement.
Ouais. Donc, ça a vraiment 2006. Pris tout le continent du nord au sud.
Complètement. T'as des gros festivals aussi. Je sais qu'en Argentine ou au Chili, mais je crois que c'est Argentine, t'as un big festival où t'avais tout le temps les Don Omar, Daddy Yankee, etc. Mmh. C'est vraiment des méga stars. Après, c'est deux choses différentes d'avoir un gros public et d'avoir des artistes qui émergent de ces zones-là.
Ouais, mais c'est marrant, ouais, d'ailleurs.
Et ça arrive effectivement. Là, maintenant, t'as des Colombiens, t'as des chanteuses. Paloma Mami, je crois que c'est une reggaetonera. Elle est de New York, mais elle est d'origine chilienne, c'est ça?
Je crois, ouais.
Tu vois, et tu commences à avoir d'autres profils.
Et avant l'émission, on parlait d'Azm Meloqué, Anita aussi, qui elle est brésilienne.
Ouais, c'est ouf, ça.
Mais, et qui chante en espagnol. Ouais.
Alors ça, je pense alors je connais pas bien, mais je dis du point de vue de la réception du public brésilien, mais pour être allé un peu au Brésil et pour voir à quel point ils sont chauvins sur le langage, tu vois, genre, quand tu leur parles en espagnol, ils te répondent
en portugais.
Basé sur mon expérience, mais j'ai entendu ça plein de fois quand même qu'ils sont, et je comprends, ils sont très fiers, ils ont pas envie de parler anglais ou espagnol. Mais alors là, qu'une méga star de chez eux chante en espagnol, c'est encore une fois ce truc de qui montre à quel point le reggaeton est une voie vers le succès.
Ah ouais, bien sûr.
Il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter autour de tout ça, l'internationalisation.
Bah, en fait, pour revenir à la Colombie, en fait, c'est la Colombie et l'exemple des artistes colombiens qui ont émergé, qui a décomplexé en fait toute une série d'artistes issus d'autres pays d'Amérique latine.
Ouais, qui peut-être n'osaient pas...
Exactement.
Parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes.
Et ça, la personne qui le dit très bien, c'est Ivy Queen dans un podcast que je recommande vraiment qui s'appelle Loud et qui propose une histoire du reggaeton en 10 épisodes qui est disponible sur Spotify et qui a, disons, le mérite de raconter par le biais de son regard d'insideuse l'histoire du reggaeton, mais aussi de femme. Donc, ça a une double lecture très intéressante. Et elle explique à quel point l'émergence du reggaeton en Colombie a
décomplexé.
Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, en Argentine, il y a des artistes et souvent des femmes artistes aussi. Donc il y a ce côté, oui, la consommation, mais aussi la production.
La production, c'est important. Personnage passionnant, Ivy Queen, d'ailleurs. On va passer d'ailleurs à la dernière partie, parce que là, on discute pas mal. Il faut qu'on parle aussi de ces questions de propos, des questions sociales, etc. Ouais, dis-moi.
Je sais que c'est ton podcast, mais j'aimerais juste parce que...
Reprends la main.
Non, mais juste pour le côté internationalisation. Déjà, je tiens à souligner deux choses. On a toujours pas écouté Gasolina.
Mais oui, c'est fou, ça. Donc, le truc plane depuis une heure.
Quand même.
Parce que Gasolina, en gros, ça marque quoi?
Alors là, je pense que c'est le premier hit avec qui n'est pas de featuring, tu vois, genre Daddy Yankee, il est tout seul sur son titre et que c'est reconnu en tant que tel, genre le reggaeton qui est en train de partir à l'assaut de la planète et qui devient vraiment major. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais vous, en France, vous avez eu un truc de gueudin. C'était ce gars qui s'appelait Papa Hype, qui avait repris la Gasolina et qui était exactement le même morceau copié et qui était un hit aussi.
Okay.
Vous vous rappelez pas
non,
de ça?
Non, je connais pas ce truc. Vous vous rappelez pas?
On peut peut-être écouter les deux, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore élucidé ce truc-là, mais vraiment.
Bon, en tout cas, on s'écoute Gasolina.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose au niveau de
game changing? Puis simplement dire que finalement, s'il fallait retenir un morceau de reggaeton, c'est-à-dire même ceux qui n'aiment pas pourrait être susceptible de connaître, c'est Gasolina, c'est l'hymne, en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire que, en parallèle de la réponse à Gasolina, et qui ensuite ouvre encore un nouveau truc, c'est quand même Despacito? Est-ce que d'une certaine manière, parce que c'est un changement pour le business, Despacito, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement monstrueux à l'échelle internationale que derrière, tout le monde se dit, OK, il y a de l'argent à se faire, en fait. Et que la production, c'est possible, qu'il y a une réception, etc. Et j'ai l'impression que c'est aussi un switch essentiel quand même Despacito, peut-être un peu moins dans la culture reggaeton, certes, mais...
Non, mais quand même, je veux dire, il y a Daddy Yankee sur le morceau, c'est tourné à La Perla, qui est un quartier ghetto de Puerto Rico, de la capitale, qui est, j'ai cru comprendre après ce clip-là, maintenant, il y a des espèces de visites touristiques, tu vois, l'encanaillement de, tu vois, genre d'aller voir le quartier ghetto, mais je sais qu'il a aussi d'ailleurs été un peu cliné et tout, mais c'est quand même en plein dedans, hein, et Game Changer, ouais, je pense aussi, et puis en plus de ça, je crois avant Baby Shark, parce que je crois que c'est ça l'histoire, mais c'est genre pendant plusieurs années après 2017, c'est pendant, je crois, 2-3 ans, la vidéo la plus vue de tous les temps sur
YouTube. Qui a fait 8 milliards de visualisations aujourd'hui, je crois.
Il y a autant d'êtres humains. Enfin,
sur le clip de Despacito.
Despacito, donc,
8 milliards. Oh là là. Bon, allez, on s'écoute Gasolina. On avait dit qu'on le ferait, on le fait. Allez.
Oh putain. Donc là ouais, il y a pas de crossover ou quoi, c'est le produit.
C'est ça. C'est vraiment tu vois, parce que même Lorna quand même, en plus c'est une reprise de ton 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 ton.
C'est vrai,
vois,
c'est vrai.
Tu vois, il y a un côté quand même où c'est un peu mixé, ouais. Elle dit papi 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 chulo, elle a quatre phrases et tout, mais respect, ouais. Hein. D'ailleurs ouais. C'est El Chombo qui a produit ça. Ouais. Donc c'est un producteur panaméen, c'est
Afro
ça.
Afro-panaméen, ouais.
Donc je dis pas que c'est pas du tout du reggaeton, mais là Gasolina c'est genre
c'est l'essence
pas
pure
édulcoré, tu vois. Alors c'est édulcoré au niveau du propos entre guillemets, parce que c'est quoi, c'est un euphémisme,
oui, on comprend,
c'est la métaphore ouais, de l'essence.
Ouais, si lui dit quand même tu veux mon essence, elle dit donne-moi ton essence, en gros.
C'est exact, qu'ils ont des problèmes de pompation,
oui,
en France,
oui,
je veux dire.
Certainement.
C'est même est-ce que t'aimes là, ah ouais, pas mal avec la période actuellement.
Ah oui, bien sûr, c'est ça, c'est les blocages de raffinerie, peut-être qu'ils avaient ça.
Ressortons Gasolina. Il y a un truc à faire.
Mais ouais, mais voilà, bref, alors c'est peut-être par rapport à l'internationalisation, je pense que Gasolina, quand même, on pouvait pas passer à côté de ça. Et au niveau rap français, quand même, il faut reconnaître une chose, il a plein de défauts, y compris en termes de carrière. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait un glow down assez interpellant, on va dire. Lafouine.
Ouais. Ah.
Mais Lafouine, en 2005-2006, il sort un morceau qui s'appelle Quelque chose de sauvage. Et la rythmique est complètement reggaeton.
C'est vrai?
Je vois que t'as envie de.
Bah, je pense, tu vois, j'aime bien quand même reconnaître le rôle des pionniers et tout. Et encore une fois, il y a plein de choses qui sont questionnables chez Lafouine, mais.
Ah oui.
Ok, on y est clairement.
Ok, mon nom, Lafouine.
Pour terminer cette partie.
2005, excuse-moi, avril 2005.
2005, ouais. Ok.
Donc c'est tôt, je veux dire, en termes de.
Ah ouais, quand
de,
même, ouais. Ouais.
Carrément. Pour terminer sur cette partie, je pense qu'on a à peu près une vision globale quand même de comment s'est passée l'internationalisation. Mais j'ai une question, et qui me semble n'est pas trop abordée dans le documentaire. C'est. Est-ce qu'on n'est pas aussi quand même sur une influence mondiale latino plus que purement reggaeton? Est-ce que le fameux Dembo. Lui-même, il ne sort pas de nulle part, et en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on donne pas du crédit au reggaeton sur beaucoup de choses qui, en fait, vont un peu au-delà et s'inscrivent dans une histoire culturelle plus riche, en fait, que simplement le reggaeton, entre guillemets?
Bah, si c'était le cas, je me tente à une réponse, mais si c'était le cas, on aurait traduit d'autres musiques avant, tu vois, en termes de, encore une fois, la salsa, le merengue, il y a plein d'autres musiques latina qui existent quand même. La cumbia et tout.
Mais je veux dire, tu sais que
musique c'est urbaine, alors.
Sans forcément reprendre le reggaeton, on entend des sonorités latino dans plein de morceaux. Je pense même un truc qui n'a rien à voir avec le rap, par exemple, dans le prochain album qui sort en ce moment là de La Femme, mm-hmm. Il parle que en espagnol. La Femme qui vient du rock, pop, etc. Indé. Et il parle en espagnol. Il y avait que des sonorités latino, en gros.
Mais est-ce que ce truc-là aurait été aussi décomplexé? S'il n'y avait pas eu le reggaeton qui avait quand même pété toutes les portes aussi.
En tout cas, moi, je m'interroge, parce que Shakira, il y avait ce morceau, Ibs Don't Lie, qui était un peu reggaeton, mais c'est globalement latino et ça s'exporte dans le monde entier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste questionnement sur est-ce que.
Bah, on a qu'à retourner à Porto Rico, on peut parler de Ricky Martin, qui a ouvert beaucoup de portes depuis les années 90, effectivement, et qui a d'ailleurs collaboré avec des reggaetonneurs de renom, comme Maluma, et donc il y a des synergies évidentes. Après. Moi, je crois pas que ça s'inscrit dans. Oui, ça s'inscrit nécessairement dans un mouvement de musique latino d'ensemble, mais le reggaeton a pris.
Ah, ça a pris une place de choix là.
Regarde, moi, je vais te prendre un autre exemple. Ouais. Rosalia.
Oui.
Et ça, typiquement. Donc, elle est espagnole, elle chante en espagnol. Ouais. La dernière fois que j'ai checké, mais c'était il y a pas si longtemps, peut-être 6 mois, ses 5 plus gros morceaux sont les featuring avec. Où les 4 plus gros morceaux sont les featuring avec les artistes reggaeton. Elle a un morceau avec Ozuna, elle a un morceau avec J Balvin, et elle a un morceau avec Bad Bunny.
Mais je pense que depuis Motomami, quand même, c'est un peu changé dans son top, je pense.
Vas-y, check.
Par exemple, celui avec The Weeknd, je serais pas étonné qu'il soit dans les premiers, tu vois.
Ah bah alors tu es con, c'est le premier?
Non, c'est pas le premier.
C'est quoi le premier?
Ah si,
c'est le cinquième.
Ouais, non, mais en fait, en nombre de streams, t'as Con Altura qui est monstrueux.
Avec J Balvin.
C'est vrai. Ensuite, t'as la Noche de Anoche. Ça, c'est même avant. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et après, t'as Despechal, La Fama avec The Weeknd, c'est 266 millions. Non, c'est vrai.
Tu restes encore. Et ça, c'est un bon argument, quoi.
Après, ils sont pas depuis le même nombre de temps sur la plateforme, donc les streams vont encore continuer à évoluer. Mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant, tu as raison.
Mais dans le sens où, tu vois, Rosalia, elle chante en espagnol, bon, alors c'est plutôt flamenco, etc., mais elle a ce truc de, disons, le langage, tu vois. Et, bah, même là, ses morceaux les plus écoutés, c'est ceux qui sont avec des reggaetonneurs. Et d'ailleurs, dans le Motomami, il y a ce magnifique morceau avec Tokisha, qui est un hymne LGBTQI+, qui est de très bonne facture et qui est une rythmique dembo. Alors là, on rentre peut-être dans des complexités, mais en fait, le dembo est l'ossature du reggaeton de manière générale, mais le dembo en soi est aussi un sous-genre du reggaeton
qui a été
décliné en République dominicaine et qui est plus rapide comme ça, et qui est, tu sais, par exemple El Alpha, La Mama de La Mama de La Mama de La Mama, vous voyez,
ouais, ouais.
Qui est plus rapide, plus agressif encore, ouais. Et qui est un peu moins justement dans le côté chant top-liné. Mais bref, pour dire que le morceau en fait entre Rosalia et Tokisha, c'est un morceau dembo, mais encore une fois, un morceau dembo, c'est rattaché, ouais. C'est comme si tu me dis de la trap et du rap, tu vois, c'est quand même, c'est la même famille.
Et sur cette rythmique, certes spécifique au reggaeton, mais elle existait avant, j'imagine, quand même. Le fameux dembo avec ce contretemps, etc. Peut-être pas avec exactement ces sonorités-là, etc. Mais j'imagine que ça se faisait avant, non?
Alors là, sûr, c'est hein. Dans quel sens ta question?
Ce que je veux dire, c'est qu'avant le morceau de Chaba Ranks,
ouais.
Le... Ouais. Il existait certainement, et même certainement depuis des décennies en réalité, non?
On n'a peut-être pas utilisé comme ça. C'est comme le boom bap. C'est comme
ouais, le boom bap, c'est ce fameux sample de c'est plus quoi, Brothers là, non, le l'archétype du boom bap de base, ouais. C'est un sample d'un disque de funk, je crois, un breakbeat.
Ouais, ils ont pris un break, mais c'est à dire que dans le morceau original, c'était peut-être un moment dans le titre, ouais. Alors qu'après ils ont pris ce truc là et c'est devenu la base de tout le reste, tu vois.
De toute façon, comme le dit bien Victor aussi, tu vois, c'est difficile de dater à un truc vraiment ultra précis. Tu vois, par exemple, le rap. On peut le dater, le premier disque de rap, c'est Sugar Hill Gang, ouais. Le truc, mais avant ça, il y a des gens qui rappent, il y a des trucs, puis avant ça, tu peux revenir au mec dans les prisons, tu vois, qui avait l'art du clash, etc., enfin, plein de trucs, tu vois. James Brown est-il un rappeur, tu vois, d'une certaine manière.
Mais là, en fait, on est sur une rythmique quand même très identifiée. Et qui en plus est ce qui détermine globalement si tu appartiens au reggaeton ou pas. Et c'est vrai que j'aimerais savoir si il y a quand même des traces de cette rythmique auparavant, et je serais pas étonné. Enfin, d'où il la sort, Chaba Ranks? Chaba Ranks, c'est pas sorti de nulle part, tu vois.
Non, mais c'est sûr que c'est des trucs qui existaient déjà, mais qui étaient pas aussi, mis en avant, valorisés comme le truc déterminant dans le morceau, en fait.
Et ça viendrait d'où à ce moment-là? Vous avez une idée ou pas?
Bah, Régis Molloy, dans le documentaire, il parle pas mal, justement, encore une fois, des percussions traditionnelles au niveau de la Caraïbe afro, quoi, tu vois, afro.
Tego Calderon met beaucoup ça en avant, ouais. Justement.
Okay. Je veux dire, tous les trucs de reggae, de dancehall, il y a des phases, tu vois, genre, quand Mister Vegas, il a fait Tamale, c'était la même chose. C'était les trucs avec les claps, là, c'est que des claps.
Le Diwali Ridim, tu dis.
Le Diwali, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, et ça, et d'un seul coup, je veux dire, ce truc-là est sorti, d'un seul coup, c'est devenu la base pour plein de morceaux, Wayne Wonder et tous ces mecs-là.
Même Justin Bieber a repris le Diwali Ridim aussi, dans un de ses groupes.
En fait, c'est des trucs comme ça qui arrivent, et effectivement, je suis sûr que le Diwali, on va te dire, bah oui, mais c'est un truc ancestral, les mecs, ils clapaient des mains autour du feu.
Oui, ça sort jamais nulle part, mais c'est vrai que, voilà, bon, bref, c'est.
Pour
juste essayer de se dire, est-ce que parfois on donne pas, enfin, on parle d'influence reggaeton absolument, alors que peut-être que ça va un peu au-delà, et d'ailleurs ça pourrait être positif aussi de les rappeler parfois, et pour parler de filiation. C'est-à-dire qu'il y a la filiation au sein du reggaeton, c'est-à-dire on est attaché au patrimoine du reggaeton, etc., mais avec le plus ancien aussi, ce serait intéressant parfois.
Ah ouais, mais ça c'est, tu vois, c'est comme l'importance de la 808, dans les instrus hip-hop, la 808, ça existe depuis 4000 ans, tu vois.
Bah ouais, mais justement, je trouve ça important de le rappeler.
Ouais, mais en fait, les gens qui, tu vois, c'est comme l'autotune, c'est des trucs où, ceux qui s'en servent maintenant, oui, le truc existait avant, mais avant, en fait, on s'en servait pas du tout de la même manière.
Mais je pense quand même l'argument définitif par rapport à ça, c'est les chiffres, tu vois, et puis encore une fois, l'infusion dans plein d'autres genres musicaux. On essaie de le montrer un peu dans le documentaire, mais on a touché ça, on a effleuré ça. Mais par exemple, tu vois, en Suisse, ça c'est hyper intéressant. En Suisse, on a de fortes communautés immigrés des Balkans,
oui.
Notamment albanais, donc albanais du Kosovo, albanais d'Albanie, albanais de Macédoine, etc., qui ont débarqué, peut-être le mot débarqué est pas très bon, mais enfin, qui sont arrivés en tout cas à des périodes où il y avait la guerre dans les Balkans et tout ça. Et donc, ça fait que quand nous, on regarde le top YouTube il y a énormément de morceaux de rap albanais, ouais, parce que c'est des communautés qui sont hyper, ouais, voilà, la diaspora albanaise, et ils écoutent beaucoup leurs propres artistes, etc. Sur, alors là encore une fois, j'ai pas la statistique exacte, mais je sais pas, sur la moitié des morceaux de rap albanais, la rythmique est reggaeton. Donc, tu vois, donc c'est ça aussi, c'est que quand tu regardes le nombre d'endroits où la rythmique s'est diffusée, le fait que des gros artistes, finalement, le morceau Nicki Minaj, on a été checker ça juste avant. Nicki Minaj, elle a plus rien à prouver. C'est une des meilleures rappeuses de tous les temps. Et là, quand je dis ça, rappeuse, c'est même agenré. C'est-à-dire, c'est une des meilleures artistes rap de tous les temps. C'est une vraie kickeuse. Elle s'est juste un peu perdue à un moment où quand elle faisait de l'EDM avec David Guetta. Mais ça, c'est quand tout le monde fait de la musique avec David Guetta. Bref. No disrespect, il y a des morceaux que j'aime bien David Guetta, mais il faut dire qu'au bout d'un moment, c'est relou. Bref. Donc, Nicki Minaj, on a regardé là, dans ses 5 titres les plus vus sur YouTube, il y a tout ça, qui est un morceau, c'est Karol G featuring, ou Becky G, j'avais des fois déjà
Karol G.
Karol G. Karol
G. Qui est une des grandes stars du reggaeton aussi aujourd'hui.
Exactement.
Colombienne.
Karol G featuring Nicki Minaj. Et en termes de temporalité, c'est un des plus récents. Tu vois, c'est-à-dire que genre, c'est son 4e ou 5e morceau le plus regardé sur YouTube, mais c'est le dernier sorti en date parmi ces 5-là.
Tu sais quoi?
Argument d'autorité.
Tu m'as convaincu.
Est-ce qu'on écoute ça? À part ça, c'est vrai qu'on a peu écouté de femmes. Est-ce qu'on écouterait on a parlé du Rosalia et Tokisha, ou alors le tout ça.
Écoute, allez, on se fait un petit enchaînement très rapide entre Rosalia et après on met le Nicki Minaj avec.
Ouais. Okay. En plus, le Rosalia et Tokisha, ça permet aussi d'avoir un petit truc d'embo.
Valentino, un bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro, un diamante azul marino, y si yo llevo la ropa pique porque soy la marea.
Ah, en vrai, ce morceau, il est plus reggaeton que dembow, hein. Ah, peut-être que je confonds avec un autre morceau de Tokisha, ou
celui qu'on cite,
dembow.
Dans le documentaire, c'est un autre encore.
Ah, ouais. Ah, c'est ouais, Tokisha toute seule, alors?
Non, c'est Tokisha et la Rosalia.
Ah, donc c'est Tokisha featuring Rosalia, et pas Rosalia featuring Tokisha?
Ah, je serais pas sûr.
C'est Rosalia et Tokisha?
De toute façon, mais vous savez quoi, les gars? Allez écouter Rosalia, c'est trop bien.
Ouais,
c'est tout. Voilà, vous trouverez bien le morceau. Ouais.
Justement, là, c'est intéressant. Donc, ce côté féminisation du mouvement. Ouais. Est-ce que là, en termes d'influence, on arrive à égalité homme-femme en termes de rayonnement, etc. Où il y a quand même, parce que clairement, au début, vu que c'était une musique qui était très viriliste, masculine, ce que tu veux.
C'est quoi, Daz? Ok, ouais. Rentrons dans la dernière partie de ce podcast. Parlons de ce que véhicule le reggaeton. Et effectivement, Daz, tu posais une question en fait sur un peu l'image qu'on en a historiquement.
Ouais, bah comme toutes les musiques urbaines, normalement quand elles émergent, c'est des mecs qui racontent. C'est souvent des mecs qui souvent racontent des trucs qu'eux considèrent comme glorieux. Et qu'est-ce que tu considères comme glorieux quand t'es dans ces trucs-là? C'est tes performances sexuelles, c'est l'oseille, c'est la drogue, c'est les crimes que t'as commis, voilà. C'est des trucs qui te permettent d'avoir un genre de valeur, de street cred, tu vois. Mm-hmm. Et ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui font du reggaeton. Moi, la question que j'ai, c'est déjà, comme je comprends pas la langue, est-ce qu'elles parlent des mêmes trucs? Est-ce que parce que on a eu ce truc là, et là encore le parallèle avec le hip-hop est très fort, c'est que les rappeuses à l'ancienne années 90, tu vois, t'écoutais Dabrat tout à l'heure, Dabrat pour percer, bah c'était un mec en fait, tu vois, elle s'habillait comme les mecs, elle rappait,
adopter des codes,
elle avait que des codes masculins en fait, tu vois, et il a fallu attendre Lil Kim, Foxy Brown pour avoir des meufs qui disent moi je suis une meuf, ok, et que du coup. Et c'est pas de faire comme si elles prenaient des calages pour aller faire des drive-by. Elles vont parler de leur indépendance en tant que femme, de comment elles drive les mecs, comment elles les manipulent, etc. Tu vois, donc.
Bon, Salt and Peppa, ça. Bah après, c'est toujours des petits exemples ponctuels, on est d'accord.
Mais Salt and Peppa, Queen Latifah, MC Light, c'était des femmes qui justement refusaient d'être utilisées comme potiches dans un clip de rap, tu vois. Et qui du coup étaient soit, en fait, il y avait deux trucs, c'était soit t'embrassais le truc et t'étais comme un garçon manqué, soit au contraire t'étais
ultra sexualisé,
enfin non, au début c'était soit t'étais garçon manqué, soit t'étais très revendicatrice, très militante, en mode on n'est pas toutes des salopes machin, etc. Et après est arrivé le truc du full décomplexé, Foxy Brown, Lil Kim, etc. ou ultra sexualisé, et ouais j'en joue, et ouais c'est je fais ce que je veux, tu vois. Et donc moi la question c'est sur le reggaeton, on en est à quel
Déjà je pense que ta question elle est juste parfaite pour parler d'Ivy Queen. Mais avant ça, peut-être un avertissement qu'on aurait envie de faire, c'est-à-dire que là, on va commencer à parler beaucoup de femmes et puis de la place des femmes dans le reggaeton. Donc peut-être encourager les personnes qui nous écoutent à aller voir ce que elles ont à dire par rapport à ça, et notamment par le biais du podcast dont j'ai parlé, Loud Divi Queen, mais aussi dans notre documentaire où on essaye de mettre en lumière et puis de montrer un petit peu l'art de trois artistes femmes, donc Lazoui, Anita Kirpis et Miss Nina, qui nous parlent justement aussi de leur place dans le milieu reggaeton. Donc ça, c'est le premier avertissement. L'autre avertissement qui me paraît aussi important, et c'est valable pour le rap aussi, c'est que il faut faire attention, quand, à mon avis, quand on parle du sexisme d'une musique, de ne pas faire le jeu de celles et ceux qui utilisent le sexisme d'une musique pour en réalité musique, dénigrer des communautés. Souvent, ça s'exprime sous des formes de racisme, de classisme, etc. Donc, c'est un rappel de base que j'aimerais quand même faire parce qu'effectivement, le reggaeton a été aussi victime de ça. Et pour donner un tout petit exemple, en Espagne, par exemple, où il y a une immigration latino-américaine très forte qui a eu lieu dans les années 90-2000, dire que le reggaeton c'est une sous-culture, c'est une sous-musique, c'est aussi implicitement critiquer cette immigration latino-américaine.
C'est utiliser ça comme
donc voilà, ceci étant dit, par rapport à ce que tu disais, en fait c'est très intéressant parce que Ivy Queen, donc dont on parlait avant, pionnière qui était active dans la scène underground, dans l'underground de Porto Rico dans les années 90, elle a joué dans les deux registres et quasi en même temps, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec une posture très masculine justement pour s'imposer. Elle a dû subir les railleries, les moqueries, les tentatives de sabotage. On a essayé de lui couper son micro. Et en fait, elle a réussi à s'imposer en tant que rappeuse et reggaetonneuse par le biais de battles où elle se démontait pas et où elle adoptait des postures très viriles, justement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Ivy Queen, progressivement, a commencé aussi à assumer sa part de féminité au sens socialement construit. Et elle a très vite en fait porté la cause des femmes et il y a ce gros morceau qui est Yo Quiero Bailar, que ça il faudra qu'on l'écoute parce que c'est un classique et puis en même temps ça nous permet d'entrer dans toutes ces questions de genre où elle dit en gros, alors Yo Quiero Bailar, je veux danser, on peut danser chaud, on peut se frotter, etc., mais ça veut pas dire que je vais coucher avec toi.
C'est ça,
et donc ce qui est intéressant par rapport au reggaeton traditionnel où finalement c'est l'homme qui est en position d'énonciation et puis qui dit moi je m'approprie le corps de la femme, elle dit on peut faire du péréo, qui est cette danse ultra sexualisée dont on pourra peut-être parler après, mais c'est moi qui fixe mes propres règles.
On écoute ça un passage.
Allez.
Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense.
J'ai le clavecin là, tiens. Pourquoi pas?
Yo quiero bailar. Quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar.
Là, on est en quelle année là?
Ça, c'est, si je me trompe pas, 2002 peut-être.
C'est ultra tôt par rapport à des Daddy Yankee, etc. Ça. On est
pionnière.
Ouais, on est vraiment dans ce début des années 2000 où il y a cette effervescence. Et puis quand on reprend l'histoire du reggaeton, il faut pas oublier que dès le départ, en fait, il y avait une femme, et une femme qui jouait pas un rôle secondaire, mais qui était au centre du mouvement.
Ouais, c'est intéressant, en même temps.
En même temps, exactement.
Pour qu'on comprenne quand même la situation initiale et pourquoi, en tant que femme, c'est pas évident, encore aujourd'hui, j'imagine, dans ce milieu. J'aimerais qu'on parle d'un exemple dans votre docu que je trouve assez marquant. C'est le fameux DJ El Dani, donc, qui est un des intervenants, et qui à un moment dit, je vous avoue, qu'au vu des propos, des traductions, etc., de certains morceaux, parfois je me questionne sur le fait de me revendiquer comme un DJ reggaeton.
Il dit
que ça lui pose question.
Non mais attendez, le truc que vous utilisez pour illustrer, même moi j'étais en train de, j'étais crispé sur mon canapé. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Non alors il y a le mec qui dit je vais te chercher au collège.
Ils sont chauds.
C'est des trucs de pointeur là.
Ça démontre quand même que la situation initiale est folle. Est-ce que d'ailleurs c'est vous-même quand vous êtes dit on va faire un documentaire sur le reggaeton, vous êtes questionné en disant
on va mettre en avant une musique qui, sous certains aspects, est incroyable, mais aussi parfois problématique.
On s'est complètement posé la question, et nous, encore une fois, mais moi, c'est une politique que j'ai aussi par rapport au rap, tu vois, c'est que, encore une fois, c'est la nuance. Je peux te dire, j'aime ce titre-là d'un point de vue musical, mais par contre, waouh, au niveau des paroles, c'est chaud. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on n'en parle pas du tout, ou est-ce qu'on en parle en introduisant la réflexion autour de ça, tu vois? Alors, évidemment, il y a des limites à, tu vois, si, pour prendre l'exemple du rap, si on parle de, enfin, du rap ou du R&B.
R. Kelly.
J'allais prendre ça, tu vois.
Ah, oui. C'est compliqué,
si tu prends R. Kelly, tu commences à te dire, bon, est-ce que je dois faire un documentaire sur R. Kelly où je vais déconstruire les paroles, les trucs, et puis finalement, il y a quand même de l'argent qui lui retombe dedans parce que tu génères du stream, sais pas, tu vois. C'est une question très complexe. Mais nous, en tout cas, on s'est dit ça. On s'est dit, on va en parler sous toutes les coutures. On adore cette musique. On a des choses à lui reprocher aussi. Il y a aussi, d'ailleurs, y compris dans ces thématiques des verres à moitié pleins, à aller inspecter, tu vois, encore une fois, le fait que, bah, tu vois, il y a eu Ivy Queen historiquement, qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles figures féminines très puissantes, qui ont beaucoup de visibilité, beaucoup d'influence et tout ça, donc... On s'est dit, c'est aussi rendre hommage à toute la complexité du tableau, quoi. Mais en l'occurrence, par rapport aux paroles, etc., il y a ce truc très grivois, tu vois, d'être dans les paroles vraiment, tu vois,
salace.
Ouais. Et effectivement, bah, tu vois, au début, c'est une sous-culture, mais dans le sens premier du terme, on disait underground et tout, tu vois. Donc, d'ailleurs, tu me contredis, mais au début, enfin, il y a un moment où le reggaeton très qui parlait beaucoup de sexe, c'était le
Beyakeo,
exactement.
Il y avait un sous-genre qui était dédié.
Ouais, tu vois, c'est un peu. Enfin, j'imagine si on fait une comparaison que c'est un peu, tu vois, le Two Live Crew, tu vois, la part. Au bout d'un moment, ça deviendra un peu général, tu vois, de la même manière que le rap français. Il y a un moment où c'est pas tout le monde qui disait la chatte à ta mère, et puis au bout d'un moment, tu vois, il y a des charismes qui arrivent et tout, et puis tout le monde. Ouais, et encore une fois, c'est pas pour résumer le rap français.
C'est pas mal, je trouve.
Mais tu vois, pour dire qu'il y a des, voilà, il y a des tendances qui se spread comme ça, qui se. Tu as un peu de franglais comme ça, ça fait genre, tu vois.
C'est ton côté suisse.
Ah ouais, bah ouais. Et en l'occurrence, donc ça se diffuse. Et puis, bah, t'as aussi ces périodes où ça se féminise parce qu'il y a beaucoup de censure à la radio. Ils commencent à dire non, mais les gars, quand même, ça devient trop, c'est limite des audios porno ce que vous êtes en train de nous produire, tu vois. Donc les gars, ils commencent à euphémiser, mais ça devient la gasoline, ça devient mon saucisson, ça devient
mon salami,
ma charcuterie. Ouais,
mais du coup, est-ce que, parce que sur le rap américain, quand il a fallu le diffuser en radio, ils avaient des versions radio edit.
Ah ouais.
Ou soit les mecs dès le départ, ils ont enregistré le même titre en enlevant tous les gros mots. Ouais, soit il y a des gars qui te mettent des scratchs quand. Est-ce qu'il y a eu ce mouvement-là aussi côté reggaeton, ou est-ce que dès le départ les mecs ils ont dit on va faire des morceaux qui sont diffusables sans qu'on ait besoin de repasser après pour les édulcorer, tu vois? Est-ce que
du point de vue de ce que j'ai pu lire jusqu'à là, évidemment on vient ici avec le statut d'expert, mais des fois on a des semi-réponses par rapport à d'autres choses, mais tu complètes si jamais. Mais dans justement le reportage de Society que je trouvais très très intéressant, ils expliquaient ça justement, qu'à cette époque-là, c'est au niveau de l'industrie, ils prennent le problème à bras-le-corps et ils disent, ok, en fait, on laisse tomber les paroles trop explicites et on fait de l'euphémisme. Mais
c'est exactement ça. Il y a une campagne politique à Porto Rico, je crois, au début des années 2000, justement, qui était plus axée sur le côté pornographique, alors que ce dont on parlait avant par rapport aux saisies de CD et cassettes au milieu des années 90, c'était plus par rapport à la criminalité associée en fait à cette musique. Et à ce moment-là, bah ça a poussé les reggaetonneurs, reggaetonneuses à édulcorer leurs propos. Et ce qui était intéressant justement dans ce reportage, c'est qu'ils étaient même reconnaissants.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça leur a permis finalement de se diffuser davantage.
Ouais.
Donc il y a vraiment ça. Après, est-ce que il y a des morceaux qui ont été en partie censurés,
explicites lyriques, c'est
ouais,
tout.
Ouais, ça. Alors ça, j'ai pas le souvenir de ça. Pour être honnête.
Du coup, ils ont eu la présence d'esprit carrément de faire des morceaux dès le départ édulcorés pour.
Bon, mais édulcorés, mais on reste à un niveau.
Ouais, mais alors après, ils utilisent des métaphores, des choses comme ça. Bon, ok.
Juste parenthèse, mais parce que c'est vrai que tu vois, typiquement au niveau du name dropping. Tout à l'heure, j'ai dit Gloria Vélez, mais Gloria Vélez, c'est plutôt une reggaetonneuse. Alors, la politicienne en question qui fait partie de cette censure-là, je me rappelle plus de son nom. Et là, c'est trop compliqué à aller chercher.
en tout cas, ce qui ressort quand même, et ça explique aussi la difficulté pour les femmes, c'est qu'on est dans une musique globalement assez viriliste, qui met en avant la performance, on le disait, etc. Que ce soit vis-à-vis des femmes, et pas seulement, on parle aussi effectivement des violences, etc. Et en même temps, en parallèle, c'est aussi une musique qui à la fois parle de quotidien, de pauvreté, de racisme, il y a ce versant-là
Est-ce que, par exemple, c'est une musique qui a été le véhicule d'une plus grande représentation des communautés noires, par exemple, en Amérique latine?
Ça, c'est très paradoxal, parce que autant le reggaeton de base est vraiment une musique afro-latino-caribéenne, autant quand tu regardes finalement les plus grosses stars du mouvement, c'est pas les gens avec les peaux les plus foncées, si on veut le dire comme ça, tu vois. Alors aujourd'hui, t'as un retour, il y a Sech, qui est un chanteur du Panama, qui est incroyable, il chante super bien, il a beaucoup de talent et de succès maintenant. Mais c'est vrai que si tu regardes, tu vois, Daddy Yankee, alors après, ça reste des personnes racisées et tout, mais tu vois, d'un point de vue, encore une fois, si tu, comme tu disais tout à l'heure, on regarde l'Amérique latine en un gros bloc. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes à l'intérieur de l'Amérique latine, il y a des problèmes de racisme.
C'est complexe que ça, ouais, bien sûr.
Ce que dit Roberto dans votre documentaire,
exactement,
qui est très pertinent, ouais.
Vis-à-vis des personnes, donc indigènes, des populations historiquement qui venaient du continent, les personnes descendantes d'esclaves et tout ça. Donc tu vois, quand tu regardes les tout premiers gens qui faisaient du Spanish reggae et tout, bah c'était quand même des noirs à la peau foncée, on va le dire comme ça. Et puis bah au fur et à mesure, quand tu regardes ceux qui pètent, même si tu regardes les Don Omar, les Osuna et tout, c'est des gens qu'on classerait dans la catégorie entre guillemets light skin, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi une espèce de whitewashing du reggaeton.
Est-ce que dans le discours, il y a aussi un côté revendicateur vis-à-vis des racines, par rapport au racisme qu'on subit, notamment quand on est noir? Mais d'ailleurs, on pourrait aussi se poser la question, tu parlais des populations indigènes, est-ce qu'il y a une représentation indienne aussi, par exemple, amérindienne?
Assez peu, ça, quand même, non, si je ne m'abuse. Hein. Après, il y a sûrement tellement de mélanges dans ces zones-là.
Alors, on a parlé de Tego Calderón avant. Ouais. Tego Calderón, ce qui est vraiment intéressant, donc on a écouté Paquerretosen avant, et puis ça c'est issu de l'album Abayarde, et dans ce même album il y a une chanson qui s'appelle Loiza, qui est une municipalité où il y a une forte concentration d'afro-descendants à Porto Rico. Et en fait, il explique, il dénonce l'hypocrisie de la trilogie raciale qui sert en fait de récit national à Porto Rico, et qui dit en gros que cohabiteraient sur l'île trois races, blanches, indigènes et noires, qui seraient sur un pied d'égalité. Et lui, il dit, mais dans les faits, c'est complètement faux. Et puis ça, il le dit par sa musique. Donc là, il y avait une
côté revendicateur.
Ouais, très très fort. Et donc si on prend cet exemple-là, effectivement, c'est quelque chose qui est très très présent. Après, par rapport à cette perspective de whitewashing, blanqueamiento, comme on le dit en espagnol, il y en a beaucoup qui dénoncent ça aujourd'hui. Et José l'a très bien dit, en fait. C'est que c'est pas un hasard si les personnes qui sont le mieux représentées et le plus mises en avant aussi, parce qu'il y a tout ce qu'on voit pas. C'est-à-dire, on peut aussi se demander pourquoi des artistes comme Zion et Lennox, qui sont artistiquement excellents, n'ont pas davantage de visibilité. Donc c'est des questions qui sont complexes.
Préciser que Zion et Lennox sont plutôt foncés de peau, justement. Ouais.
Bah, vous avez quand même une théorie dans le documentaire. Vous dites qu'il y a aussi une responsabilité de la part des médias et de l'industrie.
Bien sûr. Alors juste aussi, parce que enfin on à chaque fois on amène plein de nuances, oui, et tout, mais quand même, là où t'as raison, ta première question qui disait est-ce que ça a contribué à visibiliser des personnes issues de quartiers, notamment afrodescendantes, Tego Calderón est une immense star quand même en Amérique latine. Mais tu vois, au niveau internationalisation, il a moins passé le cap, tu vois, il a pas atteint les niveaux de Daddy Yankee et tout ça. Après, on peut pas mettre que ça non plus là-dessus, hein, mais c'est intéressant de voir que à la base c'est un art noir, et que quand tu regardes les plus grosses stars du milieu, c'est pas des personnes noires, ou en tout cas plutôt light skin. Voilà, donc ça c'est quand même, tu vois, c'est toujours côté nuance à faire. Maintenant, sur le côté responsabilité des médias, bah c'est sûr, tu vois, moi j'ai envie de responsabiliser les artistes quand même, j'ai envie de responsabiliser évidemment, au moment où t'écris quelque chose, tu dois te poser la question de l'influence et tout, mais j'ai aussi ce recul. Je parle volontairement en jeu parce que moi, je suis issu d'un milieu, tu vois, upper middle class, où j'ai eu accès à des environnements culturels, tu vois, confort socio-économique, etc., qui fait que c'est facile de ma position de regarder des gens qui viennent de quartiers méga défavorisés et leur dire, mais putain, les gars, vous êtes super sexistes, en disant putain en plus, tu vois, franchement, c'est super sexiste ce que vous faites et tout, mais je sais pas ce que c'est que de vivre dans ces quartiers où tu dois te construire avec une certaine forme de masculinité, et, tu vois. Donc, je pense que au niveau, déjà, la première chose avant les médias, c'est quand même déjà au niveau de l'industrie, parce que les DA et tout ça, c'est pas des gars qui viennent. La plupart, c'est pas des gens qui viennent de quartier,
là-bas,
qui sortent des écoles de commerce et tout ça. Il y en a, hein, des gens qui viennent de quartier dans les écoles, enfin dans les maison de disque. Ouais. Mais au moment où on décide de marketer telle ou telle dimension d'un artiste, bah c'est pas anodin, tu vois, que
bien sûr, bah c'est même enfin de manière totalement cynique, je pense que ça rentre même dans l'équation de se dire il est plutôt clair de peau, avec ça on va pouvoir attraper les gens qui seraient dit en temps normal c'est pas pour moi cette musique, tu vois.
Voilà.
Clairement.
Et puis aussi le côté bah les paroles sexistes même euphémisées, bah ça fait vendre quand même, ça va créer du scandale, etc., etc., tu vois. Donc je pense que là au niveau de l'industrie il y a déjà une grosse responsabilité. Et puis oui, effectivement, après du point de vue média, enfin et puis c'est pas si compliqué que ça. Moi je le fais dans mon émission Nayuno, c'est pas pour enfin j'ai plein de défauts, tu vois, mais si j'aime vraiment un morceau que je me dis waouh le message il est chaud quand même, je touche un petit mot derrière, tu vois, alors que diffuser tout le temps un type de musique, tu vois, un type de reggaeton, tu vois, dans le reggaeton il y a toujours eu une branche engagée, même si elle était peut-être en proportionnalité ou en proportion plutôt un peu moindre, mais encore une fois Tego Calderon a eu des morceaux ultra engagés, Caetrese, tu vois, il y a un moment où carrément il y avait des bifs dans l'industrie parce que il y en a qui disaient que c'était pas du reggaeton, alors aussi parce que Caetrese mélangeait beaucoup de genres musicaux avec de la cumbia, etc., mais Residente lui-même le dit qu'il s'est toujours considéré comme un reggaetonero, tu vois, et en l'occurrence il est blanc, donc tu vois ça amène plein de croisements de questions, mais en l'occurrence, tu vois, dès que c'était un peu plus engagé ou quoi, bah on labellisait pas forcément ça en tant que reggaeton. Ça c'est une responsabilité clairement médiatique et industrielle, tu vois. C'est genre dans quel bac tu décides de mettre quel disque, est-ce que le reggaeton c'est forcément ça doit parler de ça comme ça comme ça.
Est-ce que vous observez quand même une évolution avec le temps des problématiques qu'on a pointé du doigt, et je pense notamment à une représentation d'une communauté en particulier vaste, mais qui aujourd'hui, heureusement, dans notre société, est de plus en plus représentée, justement, c'est la communauté LGBT. Et il y a toute une partie dans vos documentaires, justement, où vous dites, le reggaeton aussi, mine de rien, commence à connaître, si ce n'est une révolution, une évolution, en tout cas, autour de ces questions.
Mm-hmm. Ouais, bah, en fait, ça nous permet d'entrer dans un niveau supplémentaire de complexité. Ouais. Donc là, on a dit, donc on a parlé de la pionnière Ivy Queen. On a dit que maintenant, il y a une meilleure représentation des femmes. On a cité quelques artistes, Karol G, Natasha, Becky G, Anita, etc., etc. Mais là, on se situe davantage sur la scène dite mainstream, qui est davantage encadrée par l'industrie du disque. Et donc, pour répondre à une question à laquelle on n'avait pas répondu avant, oui, il y a des messages différents qui sont véhiculés par le biais de cette musique-là. Le site d'énonciation change, donc du coup, on adopte aussi le point de vue de femme. Et bien entendu, bah, on se retrouve dans des configurations où, par exemple, dans la Respuesta, Becky G dit « Voilà, moi, je ne serai pas ta boniche si tu veux être avec moi. Ce n'est pas pour que je fasse les tâches ménagères. » Donc ça, c'est un aspect important. Par contre, si on veut vraiment entrer dans ces espaces où les identités de genre s'expriment beaucoup plus librement, ouais, là, on a plutôt intérêt à se déplacer vers la scène dite underground, qu'on essaie d'explorer dans le cadre de notre documentaire, et notamment la scène du néo-perreo, qui est, disons, une scène musicale de personnes qui, à la faveur de développement technologique, ont pu produire de manière autonome leur propre musique depuis leur chambre, et puis qui ont pu produire une musique beaucoup plus libre et moins formatée, destinée à des, disons, des audiences plus spécifiques. Et là, on retrouve justement des personnes qui abordent en fait les questions de genre différemment, et on se retrouve aussi avec une représentation, par exemple, on parle de King Yedet, qui est devenu Yedet dans le documentaire, qui est une femme trans qui a collaboré avec Miss Nina, qu'on a eu l'opportunité de...
Qui est espagnole, Yedet, d'ailleurs.
Oui, Yedet, ouais. Mm-hmm.
On peut mettre cet extrait sur
Bah, Reynas, par exemple.
Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera. Pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta.
Là, par exemple, typiquement, sur le morceau qu'on vient d'écouter, il y a de la revendication dans les paroles?
Bah, le refrain, en fait. Okay. Todos somos reinas. Nous sommes tous des reines. Ça veut dire, aimons-nous tels que nous sommes, ouais, dans notre diversité, dans notre pluralité. Et donc c'est un véritable cri de ralliement. Et d'ailleurs, bah, on voit que donc il y a une représentation différente d'un point de vue des artistes, mais aussi des personnes qui consomment cette musique. Et José, t'avais donné un exemple qui je trouvais très parlant lors d'un précédent échange, c'est que par exemple Miss Nina, on l'avait interviewée dans le cadre de sa venue pour un concert à la Pride de Genève.
Ouais.
Et donc souvenons-nous d'où on vient avec le reggaeton. Par rapport à son sexisme, etc. Mmh. Bah là, on se retrouve à avoir des...
Et son homophobie, hein, ouais, on peut le dire. Ça, hein.
Bien sûr. Mmh. Des reggaetonneuses qui, et des reggaetonneurs qui sont invités maintenant dans ces espaces plus progressistes, ouais. Davantage sensibles aux questions de genre. Mmh. Donc oui, là, on peut dire qu'il y a une véritable évolution de ce point de vue.
Mais qui se cantonne pour le moment à la scène underground.
Bah, il y a quelques incursions quand même. Hein.
Le titre Rosalia et Tokisha, qui mm-hmm. parle complètement de rapport lesbien en fait. Dulce deliciosa comme una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulce deliciosa comme una cookie. Tu eres linda, yo te rolling. Nos besamos, pero somos homies. Tu vois la rythmique dembow dont on parlait tout à l'heure, c'est, donc ça c'est le côté dembow dominicain qui est plus rapide.
D'accord. Ça ambiance bien. Hein. Et donc ce morceau, il est aussi représentatif d'une forme revendicatrice, même dans un truc quasi pas mainstream, mais Rosalia, mine de rien, ça commence quand même à...
Oh, c'est méga big quand ouais. même, Rosalia.
À cette époque-là, quand le morceau est sorti, c'était déjà le cas?
C'est quelle année? C'est assez récent, hein, ce morceau.
Il est assez récent, en fait. Okay. 2021, donc t'as raison, oui, donc c'était très gros, alors.
Ouais. Et Tokisha est moins connue, mais elle est aussi sur un morceau avec J Balvin, là, Pera.
Elle monte, hein.
Elle monte aussi, ouais. Je crois qu'elle-même est dominicaine. Ce morceau, en gros, la traduction du refrain, c'est les meilleurs amis, c'est quoi déjà?
C'est les amis qui s'embrassent sont la meilleure compagnie, ou quelque chose comme ça. Donc,
il y a que des meufs dans le clip, donc on comprend.
C'est le truc qu'il y a dans votre documentaire où les hommes explosent si on fait des ciseaux là ou...
Non,
c'est génial, ça c'est un autre truc.
Là on est dans l'underground, vraiment.
Okay.
Non, mais ça c'est dans le côté mainstream, et tu sais, dans le côté mainstream aussi, alors évidemment, il faut vraiment, rendre à César, dans le sens où les femmes qui œuvrent là dans le mouvement ont vraiment, il faut reconnaître leur travail à leur juste valeur, mais il faut aussi avouer que quelqu'un comme Bad Bunny, donc qui est un homme mais qui a pris des positions hyper intéressantes dans ce domaine-là, a amené des choses, je pense, bah, en tant qu'allié, si tu considères ça justement comme des luttes sociales, tu vois, il a repris Opere Osola, qui est le principe en fait de vraiment de Ivy Queen, genre je danse toute seule. En plus, dans le clip, il est lui-même donc habillé en femme et tout. Il y a le remix officiel avec Ivy Queen. Donc là, encore une fois, même en termes de passation de génération, tu vois, peut-être les plus jeunes qui connaîtraient moins, etc. Et Bad Bunny, encore une fois, on parle du gars le plus écouté de la planète ces deux dernières années sur Spotify, par exemple. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper big. Et puis aussi dans des concerts, je crois, quand il était chez Jimmy Fallon, il avait porté un t-shirt en mode pro droit des personnes trans et tout, tu vois. Donc ça bouge lentement, ouais. On n'est pas en train de dire que ça bouge. Mais voilà, c'est quand même le haut du panier en train de, les personnes du haut du panier sont en train de faire des moves assez intéressants.
Ce que t'as pas dans d'autres mouvements, ce que t'as pas dans le hip-hop, par exemple.
Mais dans l'underground.
C'est un peu.
Ouais, mais
dans l'underground,
t'auras pas Drake sur un plateau avec un t-shirt avec des messages pro-LGBT.
Mais Jay-Z, tu vois, a fait des phases sur sa mère qui est lesbienne, tu vois, et puis où il normalise un peu quand même.
Ouais. Le lesbianisme.
Voilà. Non, mais évidemment, le lesbianisme.
Mais tu vois,
Mais tu as Kendrick aussi, je crois, dans son dernier album, il a 2-3 phases sur les questions LGBT, ouais. Après lui-même aussi, il a 2-3 phases sexistes, mais bref, cela ne nous regarde pas. En tout cas, ici. mais ça bouge quand même, tu vois. Ouais. Après, encore une fois, c'est toujours la même question de, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que ce soit, qu'on n'ait même plus à parler de ces questions dans l'absolu, tu vois.
Non, mais c'est vrai que ça
a
le mérite.
Et aussi, on peut se demander si, cet élan pour les causes LGBTQ+,
pinkwashing.
Ne serait pas associé à la vague MeToo, et puis est-ce qu'il n'y a pas une envie une velléité de marchandisation de la part d'un Bad Bunny de s'inscrire dans ce mouvement politique aussi. Donc voilà, on ne va pas lui attribuer ces velléités-là, mais on peut se poser la question, parce que c'est peut-être plus simple de le faire aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ans.
Complètement. Ouais. Mais le fait qu'il soit le seul à le faire, ouais, parmi les hommes, en tout cas du reggaeton, montre que c'est pas non plus un truc en mode ok, on a décidé avec le label et maintenant tous nos artistes, ils vont commencer à avoir des messages progressistes, tu vois. Donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là.
Ce que je vous propose, car on a fait déjà une émission assez longue, c'est peut-être de terminer avec une dernière question entre guillemets. C'est comment vous le voyez l'avenir du reggaeton? Alors ça, on pourrait développer ça pendant des heures, j'imagine. Mais que ce soit évidemment d'un point de vue prise de position, représentation, d'un point de vue social, etc., mais aussi d'un point de vue esthétique, musical, sonore. Comment vous voyez les choses? Est-ce que aussi, c'est pas une forme de mode, en tout cas à l'international? Je pense que c'est déjà inscrit culturellement dans toute l'Amérique latine. Est-ce que ailleurs, ça peut bouger? Comment vous voyez les choses?
C'est très difficile à, je trouve, anticiper le, quand on parle de création artistique. Maintenant, je pense quand même que, tu vois, si tu te bases, par exemple, sur les cycles, même en termes de cycles et de, comment dire, de sonorité à la mode pendant un certain moment, je pense qu'on en a en tout cas pour un petit, je sais pas, une bonne petite demi-douzaine d'années en tout cas là. En tout cas, allez, disons 3-4 ans. Imaginons que ce soit une mode éphémère, elle va en tout cas durer encore un petit moment, parce que je pense qu'il y a pas de choses, il y a plein de choses qui n'ont pas été exploitées. Je pense que tant que les gros artistes auront beaucoup d'audience, ça va continuer aussi de, tu vois, de driver tous ces gens-là. Moi, par exemple, je me réjouis, j'aimerais, hein, c'est pas sûr que ça arrive, mais j'aimerais trop voir un featuring Bad Bunny avec quelqu'un du monde francophone, tu vois. Après, t'as des artistes qui sont tellement big qu'ils font pas de featuring avec des gens d'autres, tu vois, genre Rihanna. Est-ce que Rihanna a un featuring, je crois que, ah oui, 113, on leur avait proposé un featuring avec Rihanna, ils l'avaient pas, bref. Mais pour dire que, tu vois, il y a des artistes comme ça, Drake n'a pas de featuring avec des artistes francophones et tout, il y en a qui sont tellement big qu'on n'arrive pas à les rattraper, on va dire. Mais, tu vois, le jour où il y a un gros featuring avec Bad Bunny dans le monde francophone, si ça se fait, ce sera assez incroyable. Après, ben, je pense que, tu vois, en termes de renouvellement de sonorité, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment il y a des crossovers un peu partout, y compris avec l'afrobeat. Tu vois, moi je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, J Balvin avait toute une tournée avec Mr Easy, qui est un chanteur. Alors Mr Easy, je crois qu'il est nigérian. Mais tu vois, ce genre de tu vois, un peu aussi comme Major Lazer fait, tu vois, Major Lazer, donc la bande à Diplo et tout, qui font des productions où il y aura un gars du reggaeton, un gars de l'afrobeat et tout. Donc je pense que dans les crossovers entre les genres musicaux, il y a encore pas mal de choses à exploiter, explorer, tu vois, et ça peut donner des trucs assez incroyaux.
Bah, en fait, je pense que la question de savoir si c'est une mode, cette question-là, à mon avis, elle est plus pertinente aujourd'hui parce qu'on a annoncé la mort du reggaeton plusieurs fois. Déjà au début des années 2000, déjà dans les années 2010 aussi. Encore aujourd'hui, j'entends des voix qui disent « bah voilà, c'est une musique qui est en train de s'essouffler ».
Y compris à l'international ?
Y compris à l'international, ouais.
Parce que autant je veux bien qu'en Amérique latine, ça ait démontré déjà que c'est bien plus qu'une mode, autant sur la pop internationale qui s'empare beaucoup des codes, là on peut se poser la question quand même, est-ce que ça va perdurer? De toute façon, c'est le principe de la pop même, c'est dès que tu vois, c'est de prendre le truc, le moindre truc hype de machin, et puis on jette très facilement aussi.
Bah oui, bien sûr.
Après, en tout cas, encore une fois, c'est peut-être une, mettons que ce soit une mode même au niveau pop, on est plutôt sur la pente ascendante encore une fois. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore essoré, tu vois, dans ce côté. Mais bref, excuse-moi.
Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme le rythme, c'est strictement le même depuis toujours, il n'y a aucune raison que ça s'essouffle.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'était déjà saturé, tu saturais déjà dès le départ, donc en fait, tu vois, c'est pas. Ah non, mais ça va, on l'a déjà entendu. Bah ouais, littéralement, c'est le principe, donc.
Mais peut-être par rapport à ça, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bon, la première, c'est qu'une des choses que dit bien à propos Roberto dans le documentaire, c'est que ce qui manque maintenant au reggaeton, c'est un peu plus de revendiquer. Et on a vu que c'est une musique qui avait des revendications sociales très tôt. Mais c'est vrai que cette veine plus pop, qui est davantage visible aujourd'hui, elle est moins dans cette...
plus superficielle, voilà, vous dites,
c'est classique,
clairement, de toute façon.
Un petit peu moins dans cette veine-là. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, donc on parlait de l'international, mais finalement, si on se questionne par rapport à l'international, si on considère rien que l'ère socioculturelle qui est l'Amérique latine, on a déjà une forme d'internationalité qui était peu visible par le passé et qui aujourd'hui compte davantage. Et d'ailleurs, une des conclusions de notre documentaire, et évidemment, on n'a pas un échantillon représentatif, mais c'est que les personnes d'origine latino-américaine sont pour beaucoup assez fières qu'une de leurs musiques et surtout leur langue soit représentée à la radio, par exemple, ils ne soient plus moqués ou vus à travers un prisme exotique. Et donc ça, je crois que ça compte aussi beaucoup.
Même si, évidemment, toujours pour être dans la nuance, ouais. Le reggaeton mobilise aussi ces codes exotiques là, mais notamment le côté pays pauvre, trafic de drogue, etc., etc.
Voilà, il y a une forme de caricature, tu veux dire?
Ouais, exact. Et puis
d'auto-caricature.
Et puis du coup, c'est ça. En fait, tu vois, c'est l'auto-exotisation, ouais. quoi, tu vois, ou l'exotisation, c'est-à-dire l'autre, il est comme ça et c'est tout, tu vois. Il est monothématique ou monodimensionnel, tu vois. Et là, le reggaeton a en tout cas rajouté une dimension au niveau de la création artistique et du rapport de force. Ça, c'est intéressant. Toujours dans cet article de Society que j'aime bien citer parce que je trouve qu'il était vraiment très bien réalisé. Il disait que au niveau de Puerto Rico, vraiment, il y a un esprit de revanche en fait vis-à-vis du grand frère américain, parce que tu vois. C'est une toute petite île et les États-Unis c'est le gros bloc et tout, et que des artistes, là en l'occurrence je parle de Porto Rico, mais évidemment il y a la Colombie et tout, même tu vois, à ce niveau là la petite île qui fait émerger autant de stars, et les stars qui regardent les gars de la pop américaine en mode vous voulez percer, passez par nous les gars, va falloir chanter un peu en espagnol, mais c'est pas grave. J'aimerais terminer.
Oui.
Par rapport au futur.
T'as vu comme il prend les commandes régulièrement? Vas-y, continue. C'est pas parce que t'as une émission à la RTS, là, que tu peux te la raconter, hein.
Sans aller avec le futur. C'est que moi, je peux pas le prédire, mais j'aimerais beaucoup voir, justement, jusqu'où va aller l'internationalisation dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de s'inspirer aussi des top lines des reggaetonneurs. En fait, on en parlait beaucoup aussi avec Driver de ça, et on disait, tu vois, les sonorités, c'est la boîte à rythme et tout, les producteurs, même quand on parle avec King Doudou, Dimad et tout, ils nous donnent un peu les clés dans le documentaire. T'as des programmes comme Splice où tu peux aller télécharger des boîtes à rythme toutes faites et tout, c'est une chose. Mais par contre, être capable de chanter avec les top lines des reggaetoneros latino et reggaetoneras latina, c'est une autre paire de manches, tu vois. Il y a pas Splice pour les, enfin, peut-être ça existe, mais tu as des grosses top lines.
Il y a des gens qui ont des top lines aussi.
Oui. T'as raison, mais en plus de ça, tu vois, la question de la langue, même si moi je suis persuadé que le reggaeton peut exister en français, il n'empêche que chaque langue a ses spécificités, de la même manière que l'anglais glisse plus que le français, et qu'au niveau du rap, ça a mis un petit moment avant d'avoir du flow en français. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne le jour où quelqu'un bousillé de reggaeton produit de la musique vraiment très proche. À cet effet-là, je pense qu'il y a une chanteuse rappeuse française qui s'appelle Lazuli.
Ouais.
Je sais pas si vous connaissez, elle vient de signer chez Def Jam. Et elle a aussi notamment des productions de King Doudou. Et Lazuli, elle a pas mal de sonorités reggaeton, etc. C'est pas encore une fois dans les top lines, on n'est pas encore directement dedans. Mais on commence à se rapprocher d'un truc où le projet entier se veut influencé par des vibes afro-caribéennes, latina, tu vois. Donc j'ai envie de voir jusqu'à où on peut aller dans cette optique.
Les gars, on n'a certainement pas été exhaustif. Il y a certainement plein d'autres sujets à aborder autour du reggaeton.
On a déjà beaucoup parlé.
Est-ce que vous, dernier rappel, est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez, qui vous paraissent essentiels, que vous voulez ajouter, ou vous pensez qu'on a été quand même à peu près clair, à peu près un peu large dans notre approche?
Alors rapidement une phrase.
Vas-y.
Les plus gros hits de Jul ont des rythmiques reggaeton. Voilà. Non, me mentionnez pas, les gars.
Voilà. Tu penses à quoi? Vas-y, allez, on teste pour voir si tu veux.
Jul Señora, par exemple.
Ah bah dès le titre tu sens qu'il y a une influence.
Non mais parce que tu vois, j'avais ce débat là avec des gens qui étaient là à me dire non mais ça a rien à voir et tout. Écoute.
Eh bah écoute,
on va terminer sur du Jul, sérieux.
Il est trop bien ce morceau. Je l'adore.
Ah bah oui.
Et en plus là, même au niveau des top lines, ça aurait presque pu être
ça pourrait
ce côté un peu larmoyant et tout. Ok, moi mon mot de conclusion c'est ça. Vous savez, ce qui fait la force du reggaeton, c'est qu'il arrive à nous faire danser, y compris sur des thématiques méga deep. Et ça, pour moi, c'est une qualité d'artiste de manière générale, mais là au niveau d'un genre musical. Tu vois, je prends souvent la comparaison avec Stromae et Papa Outé.
Oui.
Papa Outé est super deep. Aleron Danse aussi était un morceau plutôt deep sur le burn-out, la fatigue au travail, tout ça, tout ça. Il a réussi à nous faire danser là-dessus.
Et la Gasolina, c'est les problèmes géostratégiques.
Mais tu vois, par exemple, Bad Bunny, il a ce côté dans sa voix, il a ce côté hyper profond, mélancolique, deep, les ruptures amoureuses, les tu vois, t'as le cœur brisé, etc. Et pourtant, tu vas aller faire la fête. Et ça, c'est, je trouve, méga fort. Et il y a évidemment d'autres morceaux de reggaeton qui parlent, voilà, de problèmes de violence domestique, etc. T'en as plein, tu vois. Mais pour moi, quand t'arrives à faire danser des gens sur des thématiques méga deep, je trouve ça très fort. Et notamment Bad Bunny, il a une émotion qui transmet à travers sa voix, qui est, moi, en tout cas, ça me connecte el corazón.
Vous savez, je voulais terminer avec des recommandations, les grands tubes, les grands essentiels, pas que tubes d'ailleurs, mais les grands essentiels du reggaeton. On va faire ça par écrit si vous voulez bien. On vous demandera une petite liste, on la mettra dans la description. Venez sur YouTube pour voir dans la description. Si vous nous écoutez en audio par exemple, c'est facile à trouver. Et comme ça, vous aurez une petite liste un peu des essentiels pour découvrir le reggaeton en fait. Ça vous va?
C'est un expert là-dedans.
Ouais, puis je voulais surtout vous remercier en fait.
Attends, tu rigoles.
Parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et on a, ouais, en tout cas, je parle pour moi, mais j'imagine que José partagera ça. On a beaucoup apprécié aussi votre ouverture par rapport à ce genre musical. Mm-hmm. Et puis ouais, bah c'est toujours intéressant.
C'est notre spécialité. On est ouvert et tolérant.
Absolument. C'est l'émission de l'éclectisme, de l'ouverture DLT. C'est moi, j'aime ça.
DLD, pardon. Non, mais vraiment, merci. Et puis, merci aussi à toute votre équipe, parce qu'on a parlé là. Et
on remercie évidemment. On remercie évidemment la bouclette qui nous aide à faire cette émission. François qui va faire le montage aussi. Merci François. Daz, je te remercie. Je remercie Thomas aussi.
Plaisir.
Et puis, les gars, tu nous remercies. Non, c'est nous. Vous êtes venus nous voir de Suisse, de Genève.
C'est vous, merci.
Incroyable.
Et salutations à nos compères avec qui on a produit vraiment
la team. Absolument. Fois.
Stéphane Reyna, Ishi Kalad, Julien Girard. J'ai d'encre. Ouais. On vous aime.
Allez
voir Reggaeton Theory.
Un grand bravo à tous. Effectivement, Reggaeton Theory.
Très très bon.
Sur YouTube, vous le trouvez très facilement. C'est passionnant. C'est une belle un beau prolongement en plus de notre discussion avec un peu plus de concrétisation. Parce que tu vois des exemples, etc. Tu vois les gens qui t'en parlent, des acteurs de la scène. C'est trop bien. Allez voir ce truc. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.
Ciao.
Merci encore les gars.
Ciao.